Hello les amis! Attends, j'ai arrêté la musique d'une façon, mais d'une brutalité à l'instant. Allez, on vient de lancer le live sur Twitch. Merci d'être là les amis. On le lance sur TikTok pour avoir le double chat. Deux fois plus de commentaires, deux fois plus de messages pertinents. Ou pas, c'est ça qu'on aime. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, oui. Voilà, ça stream de partout le matin, le midi, le soir, en semaine, le week-end. On les fout! Hâte de voir ce que dit la presse du nouveau gouvernement Bayrou. J'aime beaucoup cette blague, Grégorio. J'aime bien. Parce que gouvernement le cornu, mais qui ressemble comme deux gouttes d'eau au gouvernement d'avant. Bien joué, ça part très très fort. Merci Evan Slayer pour le soutien pour le 12e mois. Merci Julien M pour le 50e mois d'abonnement. De Dieu. King Julian, merci beaucoup pour le 17e mois. Vous êtes des rois. Tu as cassé le... Oula, là, il faut avoir la ref pour comprendre le message. Nounou124 écrit, tu as cassé le baltrou hier, Sam, quel stream. Alors, baltrou, nom de code pour un jeu qui s'appelle Balatro, hier soir, qui était mon jeu de découverte du Samplay. Je contextualise. Mon émission du dimanche soir depuis... plus de deux ans, c'est la troisième saison où je découvre un nouveau jeu vidéo chaque dimanche soir avec un invité, avec Cyprien, le célèbre créateur de contenu, voilà, qui m'a fait découvrir donc Balatro, qui est un jeu de cartes qui est inspiré du poker. Le jeu est tellement dingue qu'on a lancé une seule partie, et s'est tellement bien passé cette première partie, qui était la partie de tuto finalement, qu'on a fait une partie seulement. On a décidé de jouer les 7 pour du brelan, du carré, et finalement, c'était une dinguerie, quoi. Voilà, on a gagné des millions de dollars. J'ai hésité à lancer un live ce matin, parce que j'ai littéralement gagné des millions de dollars hier soir, lors de ce stream, avant que je comprenne, parce qu'après, Joe et Cyprien m'ont expliqué qu'en fait, c'était des dollars virtuels, c'était des points, voilà. Et je comprenais pas pourquoi Cyprien me disait tout au long de ce live, mais arrête de dire que c'est des dollars, c'est des points. Et quelque part, mon cerveau ne voulait pas entendre ça. Carte, poker, argent, quoi. Tu vois. Et donc j'ai cut le stream en pensant littéralement j'avais gagné des millions de dollars. Et en fait non. Donc du coup, quand j'ai compris ça, j'ai relancé le stream ce matin. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passé le week-end pour vous? On va lancer la revue de presse dans un instant. Cette revue de presse qui est Wapapap, Yande, Reco, Hello Sam, ici on t'écoute sur la route pour rentrer du Mans après un GP Explorer incroyable hier. Restez avec nous parce qu'on va en parler du GP Explorer. On va parler du GP évidemment. On va parler du GP notamment pour se demander. Vous savez quoi, je vais. TikTok, vous aviez le sommaire en avant-première. Je ne l'avais pas mis sur Twitch. Pour se poser cette question, il est où le GP Explorer? Regardez, c'est le dernier thème qu'on abordera aujourd'hui vers midi, là. Dans les médias traditionnels, il est où le GP Explorer? Ce matin, j'ai lu Le Parisien, pas d'article. Libération, pas d'article. Le Monde, pas d'article. L'Humanité, pas d'article. La Croix, pas d'article. Les Échos, pas d'article. L'Opinion, j'ai pas eu L'Équipe. L'équipe, j'ai lu. Ouais. Non, rien. Alors, si vous tapez GP Explorer dans Google Actu, vous allez trouver un petit article sur lemonde.fr, sur l'équipe.fr, sur leséchos.fr, sur les sites web. Voilà. Oui, c'est pour schématiser, on met souvent, parce qu'un journal, il est fini, il est limité en nombre de pages, c'est 30 pages, c'est 40 pages, c'est 50 pages, et donc on met dans le print, dans la version papier, la version PDF, ce qui semble le plus important à une rédaction à un moment donné, et puis tout ce qui n'a pas trouvé sa place dans ce print, finalement ça va notamment sur les sites internet. Donc oui, quelques petits articles dans les médias traditionnels, sur internet, mais à aucun moment dans le print, dans le PDF, finalement dans la version premium de ces journées. Et quand on voit le décalage entre tous les regards dirigés ce week-end sur internet vers le GP Explorer et la couverture des médias traditionnels dessus, il y a toujours ce hiatus incroyable. Finalement, ce qui se passe sur internet, c'est pas si important, quoi. Même s'il y a 1 million combien? 400 000 personnes en pic qui regardent un truc? Voilà. Moi, je pense qu'il y a un petit hiatus, un petit delta, en fait. Voilà. C'est un truc comme si une génération un peu ignorait l'autre. C'est mon hypothèse, on va la développer tout à l'heure. Parce que vous allez me dire, ah oui, mais il se passe des choses importantes dans l'actualité. Il se passe effectivement, on va parler du gouvernement Lecornu, on va parler de Gaza avec le plan Trump, on va parler d'un dossier passionnant dans Libération sur la révolte, le soulèvement de la génération Z, la Gen Z dans plein de pays du monde, Maroc, Indonésie, etc. On va parler de la nouvelle première ministre au Japon qui est une nationaliste affirmée, on va parler, j'ai un dossier sur ChatGPT dans nos vies. Mais il n'y a pas que ça dans les journaux. Il y a plein dans les journaux que je lis le matin. Il y a des articles sur un livre qui vient de sortir, sur les sorties ciné, sur des trucs un peu anecdotiques, un peu légers. Hein, les habitués de la lecture de la presse écrite savent qu'il y a des articles sur des actualités très chaudes, très brûlantes, très très dures. Et puis il y a une grosse partie du journal qui est consacrée à des choses beaucoup plus légères, les actions, des trucs locaux, la vie économique. Voilà. Et donc moi je pense que le GP qui s'est déroulé donc ce week-end au Mans, avec combien de personnes physiquement sur place? Démission de Lecornu à l'instant? Sérieux, là, à l'instant? Oh, waouh! Là, ce matin? Là? Ah bon, on va en parler. Donc, entre les dizaines de milliers de personnes sur place, entre les audiences du truc, entre l'effervescence autour de ce GP Explorer, et finalement, le fait que ça ne prend aucune place dans la presse traditionnelle, là, je pense qu'il y a une question qui se pose. Voilà. Donc là, on apprend à l'instant la démission de Lecornu. Info chat. Alors, quel est le réflexe tout de suite qu'on a ici? Ben, on va vérifier cette information, bien sûr, quoi. Il y a Fab qui me source Le Monde, qu'on va aller lire. 9h42, urgent, Sébastien Lecornu a présenté sa démission à l'Élysée. Alors, si c'est vrai, on va aller le vérifier, mais je vous fais confiance, hein, mais c'est un réflexe, toujours vérifier l'information, quelle est la source. Voilà. A priori, quand je vois les sources que vous citez ce matin, Le Monde, France Info notamment, je me dis, bon, a priori, je pense pas que c'est un prank de la part du chat. Donc on va aller vérifier cette info. Et si c'est le cas, et vous savez quoi? Ben, ce n'est pas vraiment une surprise. Au vu de ce que je m'apprêtais à vous lire ce matin sur le gouvernement Lecornu, et sur le fait que les premiers ministres LR menaçaient déjà de démissionner, que la censure se préparait du côté de la gauche, en fait, ça n'est pas vraiment une surprise. Enfin, que ce soit si rapide, si, quand même. Mais on va aller voir ça. Allez. Alors, on tape un petit Lecornu sur Google Actu. Voilà. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. Bon, mais l'actu en direct, les amis. L'actu en direct. Voilà, c'est ici. TikTok, je vous montre aussi. Voilà, c'est là. Le Figaro. Le Monde. France Info, Libération. Voilà. Hop, on va faire un crible actu par date pour avoir vraiment les derniers articles. Voilà. On peut aller sur lemonde.fr aussi. C'est incroyable. Après, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais vous faire le sommaire. Hein, et après, on ira voir ces dernières infos, quoi. C'est génial. Enfin, c'est génial. Voilà. Bon, là, c'est là. Ça, on est sur lemonde.fr. Hein, c'est le premier titre d'actu du monde.fr. Sébastien Lecornu a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qu'il a accepté. Ça s'est littéralement passé il y a quelques semaines. Le nouveau Premier ministre a démissionné lundi matin au lendemain de l'annonce des membres de son gouvernement. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement a été annoncé hier et il a démissionné le lendemain. Il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur de l'histoire de France et de l'histoire contemporaine de notre pays et de l'histoire de la Ve République pour supposer que c'est du jamais vu. Voilà. Bon, moi, je suis vieux déjà. Je ne crois pas l'avoir vécu. Et je ne crois pas qu'avant moi, sous la cinquième, ça se soit déjà produit. Hein, illustration de la crise de notre système politique. Hein, système, comprenez, règles du jeu et acteurs de ce système. Hein, là, c'est une dinguerie, ouais. Je ne crois pas que ce soit. Il y a Kilgren qui m'y a pas un délai de préavis. Pourquoi? Mais non, c'est vrai, il y a des gens qui sont un peu choqués en mode, mais c'est pas possible. Voilà. La nouvelle équipe annoncée hier soir a été critiquée de toutes parts. Alors, à la fois, je suis surpris parce que c'est quand même très, 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 très rapide. Regardez, avant même, tous les jours, démonstration de ce que je voulais, de ce que j'essaie de vous dire, regardez. Démonstration de mes propos. Voilà, regardez. Regardez le. Ça, c'est le sommaire que j'avais écrit avant d'apprendre la démission de Lecornu qui vient de se produire. Le sommaire que j'ai écrit il y a trois quarts d'heure à la maison, premier thème, Lecornu déjà fini, point d'interrogation. Voilà. Donc, les raisons de de ce fait politique, elles étaient en l'air. Je m'apprêtais à vous. On va enlever le point d'interrogation maintenant. Je m'apprêtais à vous expliquer qu'effectivement, à mon avis, ce gouvernement Lecornu pouvait ne pas durer très longtemps. Bon, on est passé de Lecornu déjà fini, point d'interrogation, à Lecornu déjà fini. On va même mettre un point d'exclamation. Ouais. On va changer tout de suite. Voilà, incroyable. L'actu en direct. L'histoire en direct, parce que pour le coup, c'est vraiment historique. Hein. Voilà. Et pareil, je vous le corrige sur TikTok aussi. Incroyable. C'est fou quand même. Ok. Bon, les amis. Hop. Maintenant. Bon, on va. Le matin, en général, sur la revue de presse, on prend le temps de se dire bonjour, etc. Là, on était parti un petit peu sur le GP Explorer. Et puis, ben, là, je vous propose de commencer direct, là. Hein. On y va dans le sommaire. Attends, vous savez quoi, je me trouve un peu à mauvaise mine ce matin. On va mettre un peu de couleur. On va tricher un petit peu. Ouais. On va mettre un peu de chaleur dans le studio. Regardez, hop. Voilà, c'est meilleure mine là. Attends. Ouais, c'est pas terrible. Ça, ouais, je suis un peu, oui, je suis un peu grisâtre ce matin, ouais. Ouais, pourquoi? Oui. Ouais. Écoute, on va faire avec, hein. Les amis, c'est parti, hein, on va pas lambiner ce matin, il y a beaucoup d'actu, donc de quoi on parle ce matin? Déjà, je vais vous brancher la tablette. Ça, c'est le petit sommaire que j'ai fait à la maison. Qu'est-ce que ça donne? Mais il a présenté son gouvernement hier, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il démissionne ce matin? Je vais tout vous expliquer parce qu'en fait, on a les clés de lecture. Hein. C'est à la fois surprenant parce que c'est très rapide, et c'est pas très surprenant au vu du contexte politique. Voilà. Et c'est dans la droite ligne de ce que je vous dis depuis des mois. Sur la situation politique qui est totalement bloquée. Voilà. Je ne croyais pas beaucoup à ce gouvernement Lecornu. Après, c'est de la politique, tout est possible. Un peu de talent, de hasard, parfois il peut se passer des choses, quoi. Alors, déjà, est-ce qu'on a les articles ce matin? Bougez pas, je vous mets ça bien. Tchouk. Ok, on a tout. Je vous le mets sur TikTok aussi. Hop. Voilà. Allez, les amis, il est quelle heure? Ce matin, on démarre très fort. 17 minutes, on part sur le sommaire en général. Le sommaire, c'est au bout d'une demi-heure, après avoir discuté. Mais là, je crois qu'on peut y aller. Donc, le sommaire, ce sera pour nos amis qui regarderont cette revue de presse en replay ou qui l'écouteront en podcast. Puisque désormais, c'est en podcast audio tous les jours. Hop, hop. 17 minutes et je vous le mets aussi ce sommaire actualisé sur TikTok. Incroyable. Hop, c'est parti pour le sommaire. Ok. Dans le sommaire de la revue de presse de ce lundi 6 octobre 2025. Alors, j'allais vous expliquer que ce gouvernement Sébastien Lecornu annoncé hier était quand même très fragile, notamment parce qu'il y avait un très gros dossier très bien fait dans Le Parisien ce matin. D'abord parce qu'il est décevant, c'est-à-dire que M. Lecornu avait annoncé de la rupture sur le fond, sur la forme, et on s'est rendu compte qu'il a quasiment reconduit le gouvernement Bayrou quasiment avec les mêmes ministres. D'accord? Donc déjà, il y avait une déception. Déception qui a provoqué quoi? Plein de choses. D'abord, une gauche qui prépare la censure de ce gouvernement. Hein, donc ça veut dire qu'en gros, le gouvernement était susceptible de chuter, d'être viré à tout moment, hein, à condition que le RN, à un moment, apporte ses voix à la censure, mais on rentrera dans le détail tout à l'heure. à la censure de la gauche. Et alors surtout, on avait des ministres de droite qui avaient accepté d'être dans ce gouvernement et qui menaçaient déjà de partir 24 heures après l'annonce de ce gouvernement. Pourquoi ? Notamment parce qu'ils reprochaient à Le Cornu et Macron d'avoir mis Bruno Le Maire au gouvernement, à la Défense, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, pour la droite, c'était un motif de grande colère. On verra pourquoi. Donc il y avait un grand dossier dans Le Parisien. Évidemment, on va lire ce dossier qui n'est pas inintéressant parce que finalement, ce dossier nous expliquait ce matin pourquoi ce gouvernement pouvait sauter très très vite. Et finalement, il a sauté ce matin. Réveille-toi, Samu, il a démissionné Le Cornu. On en parle littéralement depuis un quart d'heure. Sois moine, réveille-toi. Voilà, ou regarde le replay de cette revue de presse, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est littéralement écrit dans le sommaire. Alors, à défaut de savoir écouter, il faut savoir lire Le Cornu déjà fini, point d'interrogation. Donc, on parlera de ça. Voilà. On parlera aussi, évidemment, de Gaza, puisque vendredi et ce week-end, il s'est passé quelque chose de très important. On a eu un oui, mais du Hamas au plan de Trump, du président américain, pour Gaza, l'accord sous condition du Hamas au plan Trump. On ira lire le dossier du Monde pour comprendre ça. Trump salue le oui, mais du Hamas. Espoir de paix, on va dire espoir de cesser le feu en tout cas, hein, pour le peuple palestinien. Le coup de poker, c'est la une de la Croix à propos de Gaza, avec Israël et le Hamas qui entament ce lundi, aujourd'hui, des discussions indirectes. Le président américain les pousse de tout son poids à conclure un accord rapide. Israël, les familles des otages retiennent leur souffle, puisque on espère la fin des frappes de l'armée israélienne sur Gaza et on espère aussi la libération des otages israéliens. L'urgence de stopper ce massacre, vous le voyez, c'est la une de l'humanité. À nouveau, comme tous les matins ici, hein, littéralement, on va parler bien sûr de Gaza, c'est l'un des sujets importants dans l'actualité, et avec un premier ministre israélien, Netanyahou, qui lui fait tout, évidemment pour éviter un cessez-le-feu. Un dossier extrêmement intéressant en Libération sur la révolte Gen Z, hein, ou Gen Z, vous le prononcez comme vous voulez, Génération Z. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. On a parlé d'abord de la mobilisation, au Maroc, de la jeunesse marocaine. On a parlé de la mobilisation à Madagascar, de la jeunesse malgache. S'il vous plaît, tous les gens qui débarquent en disant « Le Cornu démissionne », on parle littéralement depuis une demi-heure. Le chat, des deux côtés, je vous laisse répondre aux gens qui arrivent en mode je vous annonce l'info, qu'on le sait et qu'on en parle littéralement tout à l'heure. Quoi. Voilà. Dites-leur que vous savez déjà. Mais ça n'est pas le seul pays où la jeunesse s'est mobilisée, s'est révoltée ces dernières années. Voilà. Il faut l'épingler. Les gars, c'est dans le sommaire, c'est écrit dans le sommaire. Le Cornu déjà fini. C'est littéralement écrit. Je fais rien épingler du tout. Hein. Le Cornu déjà fini. C'est littéralement sous vos yeux, quoi. C'est juste écrit, en fait. Après, il y a les gens qui lisent pas, quoi. Donc, dans plein de pays, la jeunesse se mobilise. Maroc, Népal, Pérou, Madagascar, Indonésie, c'est des pays sur des continents différents, sont des pays très différents, et pourtant qui ont ce point commun d'une jeunesse qui se révolte. Dossier passionnant en Libération. Du Maroc au Népal, une génération qui se soulève. Voilà. Avec ce symbole de One Piece, hein, le drapeau de l'équipage pirate de Luffy, le manga japonais, qu'on retrouve dans plusieurs pays, comme symbole de la révolte. Et il y a un coup de projecteur dans Libération sur ce qui se passe au Maroc, ce qui se passe également en Indonésie. On a beaucoup parlé la semaine dernière, mais on va continuer, parce que c'est un sujet qui est essentiel, qui est extrêmement intéressant. Alors ça, c'est un truc dont vous n'avez peut-être pas encore entendu parler. D'ailleurs, globalement, les médias français ne parlent pas énormément de l'actualité au Japon. Mais là, il se passe un truc intéressant au Japon. Il y a un nouveau Premier ministre, ou plutôt une nouvelle Première ministre, hein, c'est une femme, Sanae Takeshi. Alors l'Humanité parle du choix du pire pour le Japon. Pourquoi ? Parce que, je vais vite, hein, je suis dans le sommaire. Parce que, en fait, celle qui va arriver au pouvoir, là, c'est une ultranationaliste. C'est la première femme au Japon à accéder au poste de Premier ministre, donc c'est historique, voilà. Et on a une femme qui est présentée par l'Humanité comme ultranationaliste, comme nationaliste radical également par... les échos, hein, Monsieur Huberproof me parle de la Thatcher japonaise. Je crois qu'elle aime bien se comparer à Margaret Thatcher, effectivement, la britannique, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire un peu contemporaine, mais avec des, enfin, sur Thatcher, il y a le côté ultra-libéral, etc., mais teinté de... attendez, je reprends l'humanité. De propos homophobes, antiféministes, voilà, voire fascistes. Donc, on est sur une Thatcher un peu plus à droite, quoi. Voilà. Donc, on a deux articles intéressants pour comprendre qui est cette femme, pourquoi elle arrive au pouvoir, et qu'on a un pays, le Japon, qui est parfois un peu idéalisé culturellement vu d'un pays comme la France, qui est un pays qui est, c'est le paradoxe japonais, c'est un pays qui attire énormément de touristes, mais c'est un pays qui est pas très ouvert sur le monde, hein, qui a un vrai problème avec l'étranger, avec la figure de l'étranger, avec l'immigration, hein. Voilà, c'est un pays qui est très bloqué sur la question de l'immigration. Voilà. Et justement, il y a un papier des Échos qui explique ça, ce rapport très particulier à l'immigration. Et c'est dans les Échos. On lira ça tout à l'heure. J'ai un article aussi sur comment ChatGPT est rentré dans nos vies. Alors moi, ça m'intéresse, parce que je suis un vrai gros boomer là-dessus. Je n'utilise pas ces IA-là, ces IA conversationnelles, voilà. Alors que dans mon entourage, tout le monde commence à le faire. Donc là, il y a un fait générationnel. Moi, je ne me suis pas emparé de ces outils. Et pourtant, ChatGPT est rentré dans les vies des Français notamment. Il y a un dossier dans Le Monde qui est vraiment passionnant là-dessus, quoi. Et on finira avec un article, hein, je suis dans le sommaire. Ceux qui pensent nous apprendre que le cornu a démissionné, on en parle depuis une demi-heure sur cette chaîne, mais là on est dans le sommaire, donc on va en parler plus sérieusement dans quelques minutes. Et un article aussi sur alors Picsou, le héros, le personnage de bande dessinée. Et en fait, l'histoire est assez étonnante. C'est deux Français. Jules, le célèbre scénariste de BD, hein, qui est très connu, avec un dessinateur qui s'appelle Nicolas Karamidas, qui propose, je sais pas quand elle sort, mais c'est là, hein, c'est dans quelques jours ou c'est maintenant, ça sort quand ça? Bah, une BD, un album, voilà, Picsou, le Bitcoin coin, c'est Picsou qui s'immerge dans les crypto-monnaies, et en fait c'est une BD française. En fait, ces deux Français ont obtenu l'accord des Américains pour créer une histoire autour de Picsou. Voilà. Et c'est une grande première. Voilà. Attendez, je vous cherche l'extrait. Je crois que ça n'a jamais été fait avant. Voilà. Et je vous lirai ça tout à l'heure. Et c'est une grande réussite, manifestement. Voilà. Donc c'est assez étonnant. Voilà. Donc on parle, parce que l'on s'est trop vite presse, on essaye aussi de parler de choses un petit peu plus légère parfois, voilà pour le sommeil. Voilà, maintenant qu'on a parlé du sommaire, on va pouvoir rentrer dans le détail pour parler de la démission de Sébastien Lecornu. Bon, je vous lis un petit peu, et puis on y va. Attendez, attendez. Attends, je vais épingler un truc. On peut pas épingler des trucs sur le chat TikTok, mais on va le faire au moins. On sait pour le cornu. Attends, laissez-moi. Donc j'épingle un message dans le chat Twitch. On en parle depuis 9h30. Désolé, ami TikTok, on peut pas épingler chez vous. Ouais. Voilà, comme ça. Voilà. Donc c'est écrit en haut du chat Twitch, c'est écrit littéralement sur le sommaire. Voilà. Bon. Attendez, on va le réécrire pour que on va le réécrire pour que ce soit encore plus clair. Parce que déjà fini, manifestement, c'est pas assez clair pour certains. On va écrire démissionne déjà. Ah, sauf qu'il n'y a pas les accents là. Attends, je vais vous le faire bien. Attends, parce que je pense que c'est déjà fini, c'est pas assez clair pour certains. On va essayer de. Ah ouais, mais avec. Ah ouais, mais non. Bon, tant pis, on va le laisser comme ça. Parce que j'ai pas les accents sur ce clavier. Ok. Voilà. Et évidemment, TikTok, vous avez le droit au même sommaire. Voilà. Comme ça, je pense que là, dans ce français-là, je pense que c'est clair. Hein. Je vois pas comment on peut faire plus clair. Voilà. Hop. Ah, c'est. Hop. Et je vous le mets sur TikTok, bien sûr, aussi. Let's go. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Let's go. Amis de Twitch, amis de TikTok, amis qui nous écoutez en replay sur YouTube, sur Twitch, amis qui nous écoutez également en podcast audio, c'est parti pour la revue de presse et on commence ce lundi 6 octobre 2025 par la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu, 24 heures, moins de 24 heures après l'annonce de son gouvernement. C'est une énorme surprise, enfin énorme surprise. Que ce gouvernement était extrêmement fragilisé, ça c'est pas une info, j'allais vous en parler ce matin. Voilà. Mais que ce soit si rapide quand même, c'est quand même une énorme surprise. Donc on va en parler longuement ce matin, c'est le principal sujet. Même si on va parler également de plein d'autres choses. Allons voir les dernières infos. Voilà. Quoique à mon avis, ça va être un petit peu mince ce matin. Je vais vous proposer d'abord de passer en revue le dossier du Parisien ce matin, qui a été écrit hier soir. TC, on est 29 minutes? Ok, je te mets ça tout de suite. Ce qui est vraiment intéressant. Merci pour le TC. Super. Hop. Ça, c'est un dossier qui est écrit hier soir, dans le Parisien. C'était le dossier le plus complet sur ce nouveau gouvernement Lecornu. Mais pourtant, dans ce dossier, qui a été écrit hier soir, il y avait déjà finalement toutes les infos qui vont nous permettre d'expliquer ce matin pourquoi Lecornu a déjà démissionné. Hier soir, hein, parce qu'en fait un journal, il faut que ça parte en imprimerie, en gros, au plus tard vers 22h, hein, pour un journal comme le Parisien, parfois c'est plus tôt. Hier soir, le Parisien nous disait déjà, c'est une équipe en sursis. Les principaux ministres sortants ont été reconduits dimanche soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gouvernement Lecornu, en fait, il ressemblait beaucoup, étrangement, déjà au gouvernement Bayrou. Or, Lecornu, il avait annoncé une rupture aux Français, une rupture sur le fond, une rupture sur la forme. Là, il y a zéro rupture, hein, puisqu'on avait quasiment tous les ministres du gouvernement Bayrou, quasiment reconduits dans cette équipe Lecornu. Les oppositions ont accueilli ces nominations de façon glaciale, tu m'étonnes, agitant la perspective d'une censure. Donc, il y avait déjà cette menace que le gouvernement saute très très vite. Et LR songe déjà à quitter l'exécutif, c'est-à-dire qu'il y avait des ministres de droite LR qui menaçaient de s'en aller, quelques heures seulement après avoir été nommé, on verra pourquoi, ulcérés par le retour de Bruno Le Maire aux armées. Bruno Le Maire, considéré par la droite, par LR, comme l'un des responsables de l'aggravation de la dette, en fait, ces dernières années en France, puisque vous vous souvenez que c'était le ministre de l'économie du président Macron. Donc on avait toutes les infos déjà hier soir pour se dire que ce gouvernement n'allait pas durer très longtemps. On peut imaginer d'ailleurs que l'une des raisons, la raison pour laquelle Lecornu a démissionné ce matin, c'est que il a vu les réactions, il a vu que ses ministres de droite menaçaient de démissionner, il a vu que la gauche préparait une motion de censure, il s'est dit peut-être dans ces conditions, il n'y a aucune chance que mon gouvernement tienne. Mais malgré tout, ça me surprend. C'est-à-dire que cette équation politique extrêmement difficile, tout le monde la connaît. Et le Premier ministre, en acceptant cette mission que moi, que j'explique depuis des mois, cette mission extrêmement difficile, pour des premiers ministres nommés par Bayrou, alors qu'il n'y a aucune majorité à l'Assemblée ou au Parlement pour le soutenir, cette mission impossible, en l'acceptant, il la connaissait. Et c'est ça que je ne comprends pas, ce matin. C'est-à-dire que ce gouvernement n'a pas de majorité, on le savait. Que la gauche, à laquelle Lecornu n'avait pas envoyé des gages en refusant d'accepter une réforme fiscale taxant notamment les ultra-riches en France, que la gauche allait être déçue, on le savait. Voilà. Et qu'il allait fâcher la droite en nommant, j'y vois la main du président Macron là, de mettre Bruno Le Maire à la défense, de fâcher la droite en mettant Le Maire à la défense, il le savait. Et donc, c'est ça que je ne comprends pas, ce matin. Parce qu'en fait, toutes les raisons qui peuvent motiver sa démission ce matin, il les connaissait avant. Alors là, j'ai une vraie inconnue, peut-être qu'on va essayer de dissiper ce mystère ce matin. Voilà, mais en tout cas, voici le dossier hier soir du Parisien qui nous expliquait ce à quoi aurait pu ressembler ce gouvernement Puisqu'en fait, ce gouvernement, il a duré moins de 24 heures, quoi. Pardon, mais c'est surréaliste. C'est surréaliste. Vous allez rire, vous allez rire. Regardez, vous allez rire. Comme quoi, les journalistes, ils disent quand même pas mal... Enfin, souvent, ils disent des bêtises. Et parfois, l'analyse, elle est juste. On ne peut pas se tromper tout le temps. Regardez, Olivier Auguste écrivait un édito hier soir, hein, qui a donc été publié ce matin, ok. Avant de connaître la démission de Sébastien Lecornu. Et vous allez voir que la chute de l'édito, c'est « Le temps de Sébastien Lecornu semble déjà compter ». La conclusion de l'analyse de ce journaliste hier soir, c'est « Le temps de Sébastien Lecornu semble déjà compter ». L'analyse est plutôt pertinente. Sébastien Lecornu n'a pas compté son temps, 25 jours pour composer un gouvernement, ou plutôt un demi-gouvernement, puisque la liste de ses ministres reste à compléter. Certes, le Premier ministre a tenté de régler le quoi avant le qui, mais a-t-il atteint son objectif? Et ce journaliste du Parisien écrivait « On ne parierait pas que toutes les recrues nommées dimanche soir seront capables à l'instant T de détailler leur feuille de route. 25 jours pour composer un demi-gouvernement, 25 jours pour parvenir à un demi-remaniement, avec cette photocopie de l'équipe Bayrou, où est la rupture? Il y a zéro rupture. Crient déjà le PS et le RN qui ont entre leurs mains le sort de la team Lecornu. Voilà. 25 jours pour entériner un demi-renoncement, le budget 2026, s'il finit par être adopté, se traduira par une baisse du déficit moins forte que prévu. Oubliez! Salut les amis de Nerd Factory qui nous rejoignent. Nerd Factory, excellente chaîne Twitch et YouTube, hein, qui est une chaîne d'actualité de la tech. Si je dis pas de bêtises, hein, Nerd, tu me corriges si je dis pas de bêtises, qui vous propose une matinale sur toute l'actualité de la tech. Merci à vous. Nous, on est sur la démission de Lecornu, Premier ministre, qui a démissionné au lendemain de la nomination de son gouvernement. C'est totalement surréaliste. Voilà, de oublier le budget qu'a préparé l'équipe Lecornu, oublier l'embryon de programme de gouvernement de Lecornu, puisque tout ça, ça part à la poubelle. Et on va parler, je pourrais vous en parler pendant des heures sans lire des articles, parce que tout ça, c'est dans nos têtes depuis un petit moment. Maintenant, la question qu'on va se poser tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui va se passer? Les hypothèses pour le président Macron, elles sont pas multiples. Ludo nous demande dans le chat, là, est-ce que c'était le dernier fusible de Macron? On n'en est pas loin. Salut, nerd. Tu régales. Donc Nerd Factory, n'oubliez pas, la matinale tech tous les matins. 25 jours finalement, sans réussir à écarter la menace d'une censure, dès les prochains jours peut-être, ou plus tard à la fin de l'année, le temps de Sébastien Lecornu semble déjà compter. Édito envoyé dans le journal Le Parisien hier soir vers 22h. Vous voyez, ce journaliste s'est pas tellement trompé. Donc, voilà. Vous savez quoi ce matin? Je vais vous passer les détails de cette équipe Lecornu. À quoi bon? À quoi bon vous expliquer qui y avait dans ce gouvernement? Ce gouvernement, il a déjà sauté. En fait, les ministres nommés hier n'ont pas eu le temps de rejoindre leur bureau. Merci Crab Crab, merci Klaus, merci Quentin, merci Poum, merci Fafa, merci Tranquille. J'ai remercié aucun sur. Merci Kodak, merci Andrea Léo, merci Kalindi, merci Lady and Bird, merci Mathematics, merci Cryo, merci Kenawi. C'est incroyable. Merci Evan Slayer. Merci à tous. Merci Rick le cinéphile. Merci Nikita. Merci Droupi. Merci de vos soutiens. Donc je... Merci Claire et Dodi. Donc je vais passer très vite sur l'article pour essayer d'aller à l'essentiel. Pour... Voilà. Voilà. Alors, un mot quand même de la nomination de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie à la Défense, parce que c'est peut-être l'une des raisons de la crise de ce matin. Il est l'homme surprise de ce gouvernement Lecornu. Il n'y a pas beaucoup de surprises dans ce gouvernement, mais il y avait celle-ci. Merci Tarbel. L'ancien patron de Bercy à la retraite politique depuis un an fait son retour au sommet de l'État en décrochant le prestigieux poste de ministre des Armées. Ce qui a provoqué la colère de la droite. Le choix de ce gouvernement à l'identique assaisonné de l'homme qui a mis la France en faillite est pathétique. Les bras nous en tombent, cingle Marine Le Pen sur X, puisque Marine Le Pen, mais aussi la droite, LR, estime que l'un des responsables de l'aggravation de la dette française, hein, c'est l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Voilà. Déjà recordman, parce que là, c'est tous les records de la 5e qui sont battus. Hein. Déjà recordman du délai d'attente entre sa nomination et celle du gouvernement, 25 jours. C'est-à-dire jamais un Premier ministre avait mis autant de temps pour former son gouvernement dans l'histoire de la 5e République. Donc là, on vit l'actualité, mais on vit un peu l'histoire aussi. Sébastien Lecornu, donc des mots écrits hier soir par Le Parisien, pourrait devenir le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. C'est officiel. Il l'est devenu. En fait, Lecornu, hein, au championnat du monde d'athlétisme, il aurait plein de médailles d'or. Jamais un Premier ministre n'avait mis autant de temps pour former son gouvernement. Jamais un gouvernement n'avait duré aussi peu de temps sous la cinquième. Hein. Non, pardon, attendez, j'oublie des médailles. Je reprends. Jamais un Premier ministre n'avait mis autant de temps pour former son gouvernement. Médaille d'or. Jamais un Premier ministre n'avait duré aussi peu de temps. Parce que lui, il est resté plus qu'un jour. Il est resté 25-26 jours. Hein. Et enfin, jamais un gouvernement n'avait duré aussi peu de temps. Moins de 24 heures. Donc là, c'est voilà. Donc, on parle d'actu, mais c'est aussi une page d'histoire de la 5e. Quoi. Critiqué par les oppositions, impopulaire chez les Français. Ah oui, il avait une cote de popularité qui était assez faible aussi. Hein. Pire, chez ses alliés, la grève ne semble pas avoir pris. Ça, c'est intéressant, parce que c'est peut-être l'une des raisons de sa démission ce matin. Ce week-end a viré au psychodrame politique, à l'exception de Renaissance. Toute la Renaissance, c'est le camp Macron. Toutes les formations alliées, hein, de ce gouvernement. LR, Horizon, UDI, pardon, Modem. Donc là, on est sur la droite, le centre droit. Toutes ces formations se sont réunies dimanche afin de décider de leur participation ou non à la nouvelle équipe. Toutes ont eu la même réaction. C'est insuffisant, en voyant la feuille de route gouvernementale, mais en signe. Voilà. Et après, il y a eu la colère de LR dont on va parler. Regardez ce qu'écrivait Le Parisien. Avant de savoir que Lecornu démissionnait ce matin. Ce lundi, tous ces ministres se retrouvent pour un premier conseil des ministres à l'Élysée, et peut-être le dernier. Donc tout ça était dans l'air, quoi. Hein. Présent au palais demain, un participant compte les jours avant de devoir quitter son ministère. C'est un gouvernement Bayrou sans Bayrou et un budget Bayrou sans Bayrou, donc il aura le résultat de Bayrou. Bon, finalement, tout le monde s'y attendait, quoi. Sauf que ce ministre-là pensait pouvoir rester quelques jours dans son ministère. Finalement, je pense qu'il n'aura même pas eu le temps de s'installer dans son bureau, à moins d'être arrivé très 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 très, très tôt ce matin, quoi. Ils ont eu le droit au croissant quand même? Oui, peut-être. Oui, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a un petit passage sur pourquoi l'arrivée de Bruno Le Maire a provoqué la colère de la droite? Ouais, je crois que j'ai un article là-dessus. Juste là, regardez. Ouais, regardez ça. Attendez, je vous montre. C'est là. Les LR à deux doigts de partir. Les ministres de droite qui avaient accepté de participer au gouvernement, dès hier soir, disaient « on va peut-être pas rester ». Mais la phrase est surréaliste. Les gars acceptent de rentrer dans un gouvernement et puis après ils disent on va peut-être se barrer. Pourquoi? Les Républicains avaient tranché et opté pour une participation au gouvernement. Ok. Mais selon toute vraisemblance, écrivait Le Parisien, ils devraient démissionner du gouvernement ce lundi. Ce lundi matin. Ce lundi matin. Hein. C'était les infos de Marion Mourgue, qui est une excellente journaliste politique. Voilà. Comment en est-on arrivé là? Vous voyez, là, on va avoir des clés de compréhension. Après s'être interrogé tout le week-end sur leur participation au gouvernement, avoir réclamé à Sébastien Lecornu des engagements écrits, voilà les ministres LR et le président du parti Bruno Retailleau confirmés. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Pas vraiment. À peine connu la composition du gouvernement, la nomination de Bruno Le Maire aux armées, les Républicains étaient de nouveau très remontés. Voilà. Colère sur les boucles WhatsApp entre toutes ces personnes de LR. Voilà. C'est honteux. Est-ce que c'est une caméra cachée? Comment pouvons-nous accepter cela? Voilà. Nous ne pouvons pas cautionner. Comprenez l'arrivée de Bruno Le Maire dans ce gouvernement. Voilà. Car les LR reprochent à Bruno Le Maire. Mettons un petit peu d'éléments de compréhension. Parce que pour l'instant, on débarque et on dit ah, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement Lecornu déjà démissionné. Enfin, Lecornu démissionne déjà. Qu'est-ce qui se passe? Essayons de comprendre. La droite reproche à Bruno Le Maire d'être l'homme des 1000 milliards de dettes, d'avoir été le complice des turpitudes macroniennes. Voilà. Bon, ce qui est fou, c'est que les ministres de droite aient accepté de participer à ce gouvernement sans savoir à l'avance que Bruno Le Maire y rentrait également, quoi. Manifestement, ils ont été mis devant le fait accompli, hein. Voilà. Et puis, et peut-être qu'il y a une autre raison qu'on n'a pas ce matin. Parce que les raisons pour lesquelles le Cornu semble avoir démissionné ce matin, c'est que le contexte politique n'était pas favorable à ce que son gouvernement passe quelques jours, quoi. Donc il a peut-être pris les devants, mais ça me semble insuffisant. Peut-être qu'on va apprendre d'autres choses et on va aller chercher ces autres informations ce matin. On me dit qu'il parle ce matin. On me dit qu'il parle ce matin. On m'a parlé de 10h30. Là, je vois qu'on me parle de 10h45. On va essayer de choper ce discours. Hein? Peut-être qu'on ira sur la chaîne YouTube du gouvernement. On essaiera de la réagir. 10h45? Ok. Dans un instant, on essaiera d'aller voir sur la chaîne YouTube du gouvernement de Matignon si on peut avoir cette déclaration en direct. Voilà. Alors l'autre menace qui pesait sur ce gouvernement, hein, qui n'a donc pas duré au-delà de quelques heures, c'est que la gauche préparait déjà une censure. Qui parle Macron? D'après ce que je crois comprendre, c'est peut-être le Cornu. Macron, je pense, il peut pas réagir à chaud là. C'est impossible. Ce serait un signe de faiblesse politique gigantesque. Ouais. Donc, menace de censure. La gauche prépare une censure. Donc, qu'est-ce que ça disait? Ce dimanche, la gauche a de quoi grimacer. Pas un seul des membres du gouvernement de Sébastien Lecornu, qui avait pourtant promis des ruptures, n'est issu du PS, des écologistes, et encore moins de LFI. Alors même que le Premier ministre a besoin des voix des députés socialistes au Parlement s'il entend se maintenir dans la durée, ce signal est perçu comme droitier et très mauvais dans les rangs socialistes. Lecornu, il a besoin des voix socialistes pour rester un petit peu au pouvoir. Or, aucun ministre de gauche dans le gouvernement, et puis, au niveau de la politique annoncée, notamment sur le plan fiscal, aucune des mesures importantes, comme par exemple la taxe Zucman et autres, demandées par la gauche, retenues par Lecornu. La composition du gouvernement, donc le maire et puis les anciens cadres du Barreau, idem, ça a fâché la gauche. Réaction de Jean-Luc Mélenchon, tout ça pour ça. Hein? Mélenchon qui se moque d'un cortège de revenants à 80% de LR et anciens LR embauchés pour, je cite, continuer une politique qui a provoqué tant de souffrances populaires et des dégâts écologiques. Donc, LFI, les députés LFI ont annoncé qu'ils allaient déposer une motion de censure. Les députés écologistes ont annoncé leur intention de déposer une motion de censure. Les socialistes y pensaient également. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de voir s'il n'y a pas d'autres raisons au-delà de ça, quoi. Voilà. Mais il vient de démissionner. Le Cornu nous dit, Déborah, Déborah, lis ce qu'il y a écrit en haut du chat. Lis le sommaire. Alors, moi, j'ai envie d'aller voir si, à votre avis, cette déclaration de Le Cornu à 10h45, on va pouvoir la choper où? Est-ce que c'est une déclaration depuis Matignon? Est-ce qu'on peut la voir sur...
Mais en fait, c'est une dépression postpartum.
Oh là là. Sur le site du gouvernement. Excusez-moi, là, c'était un truc de publi rédactionnel sur le site YouTube du gouvernement. En direct. Eh oui! Regardez comme c'est beau. Chaîne d'info, pas les droits. Oh, on va pas aller sur France Info. Non, la déclaration qui va nous intéresser, c'est une déclaration depuis Matignon. C'est une déclaration publique. C'est pas une déclaration qui va être captée uniquement par les chaînes d'info. C'est une déclaration qui va être faite depuis, a priori, le perron de Matignon. Et évidemment, du coup, elle est libre de droit. C'est une chose publique. Et regardez, quand on va, je vous montre, sur la chaîne YouTube du gouvernement. Amis de YouTube, je vous montre aussi ça. Bougez pas. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Hop. On a ça. On a. Donc, ça, c'est la chaîne YouTube du gouvernement. Regardez. Déclaration du Premier ministre à venir. En attente, planifiée pour le 6 octobre 2025, 10h45. Donc. Il n'y a pas à s'embêter de se demander si on va aller sur TF1 ou M6 ou CNews ou France Info ou que sais-je, vous l'avez là sur YouTube en direct. Voilà, et ça on va le regarder. Donc on va se mettre un petit réveil à 10h40 quoi. C'est littéralement dans 18 minutes. Pour pas le louper quoi. Et on regardera ça. Mais là on aura les éléments de réponse. Les raisons de sa démission? Eh ben, Guillaume, on va chercher. Mais hey. Mais on aura surtout des explications de sa bouche à lui. Directement. Voilà, donc ça, on l'aura tout à l'heure. M'avertir.
Oui, oui, je veux bien.
Possible fin de la cinquième, ça c'est très intéressant. Évidemment, on va se poser des questions. Quatre spectateurs en attente, ouais. Bon. Donc, moi, pendant... Ne bougez pas, je vais essayer de vous trouver... maintenant qu'on a préparé ce react qu'on va faire ensemble, voilà, on va aller voir si on trouve sur Internet des articles qui commencent à se pencher sur le pourquoi de cette démission. Surprise quand même, hein, si rapide. Voilà. Actu, on va faire un crible par date pour aller dans les articles. Voilà. Bon, allons voir ce qu'on pense franceinfo.fr. Le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Macron aurait pu lui dire, ça aussi c'est une surprise, Macron aurait pu lui dire, dis donc, hey, Sébastien, calme-toi. Je sais que c'est un peu compliqué, que cette mission que je t'ai donnée, cette mission impossible, c'est ce que je vous explique régulièrement ici, que le contexte politique est extrêmement compliqué pour l'exécutif, mais calme-toi, prends quelques jours, je sais pas, on va faire une sieste, on en reparle. Non, le président Macron a accepté cette démission. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre ce matin. Allez, ça va dissoudre, disait Zalcher. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Moi, j'ai trois pistes, je vais vous les exposer. Qu'est-ce que ça peut être, ce qui arrive? Mais lisons d'abord ces infos. À peine formé, le gouvernement de Sébastien Lecornu a implosé. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a donc remis sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a accepté. Ça fait deux infos. C'est une annonce, là, tout à l'heure, on venait de commencer la revue de presse ce lundi matin. Tout juste reconduit au ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau avait critiqué dimanche une composition du gouvernement qui ne reflète pas la rupture promise, donc ce sont les critiques qui viennent de la droite que j'ai évoquées tout à l'heure, et convoqué un conseil stratégique de son parti. Je vous rappelle que la droite menaçait de démissionner de ce gouvernement dès ce matin. Gouvernement très critiqué, de la gauche à l'extrême droite, les responsables politiques avaient exprimé leur exaspération dimanche face à la composition de l'équipe gouvernementale annoncée hier seulement, hein, de Sébastien Lecornu. Bardella appelle à la dissolution, alors que le RN appelle à la dissolution de l'Assemblée, ça n'est pas vraiment une surprise, hein, c'est quelque chose qui est demandé depuis longtemps, mais on va en parler ce matin, la gauche qui dénonce le chaos politique. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans cet article... le contexte politique difficile, ça on le connaît. Les infos de la droite qui étaient très remontées, on les a depuis hier soir. Mais il n'y a pas d'éléments qui nous expliquent vraiment pourquoi Lecornu, lui, a pris cette décision. C'est pas parce que c'est difficile qu'il est obligé de démissionner, quoi. Voilà, ok, on a inventé l'autre, ok, il y a très peu, ouais. Vous voyez, il y a très peu d'éléments expliquant cette décision. Moi, franchement, je suis pendu aux lèvres de cette communication de Sébastien Lecornu, qui est annoncée pour 10h45, dans 18 minutes, ici, qu'on va pouvoir suivre sur la chaîne YouTube du gouvernement. Quoi. C'est fascinant. Hein, c'est fascinant. Alors, en attendant cette déclaration... moi, je ne peux pas vous expliquer maintenant pourquoi Lecornu a démissionné. Je sais toutes les raisons pour lesquelles c'était compliqué, mais que la vie politique soit compliquée, ça, c'est pas une info. Toutes ces données, on les avait de bien avant. Mais pourquoi a-t-il démissionné ce matin? Pourquoi ce matin et pas dans 15 jours? Pourquoi n'a-t-il pas tenté, par exemple, d'accepter la démission des ministres de droite et d'en nommer d'autres? Pourquoi n'a-t-il pas attendu la motion de censure de la gauche qui ne pouvait pas passer sans les voix du RN? Enfin, la mission était compliquée, mais en l'acceptant, il savait qu'elle allait être compliquée. Pourquoi cette démission si rapide? Moi, je ne peux pas vous l'expliquer ce matin. Là, pour moi, on est dans le psychologique ou une stratégie qui a été pensée par le président Macron dans ces dernières heures en voyant que vraiment, c'était allait être compliqué. Et peut-être que Macron nous prépare un truc. Voilà. Et j'en viens aux trois solutions pour le président Macron aujourd'hui, parce qu'il y a Bliss qui dit impasse politique. Il y a une forme d'impasse politique aujourd'hui, mais quelles sont les trois hypothèses, les trois solutions pour le président Macron aujourd'hui? Le président Macron peut nommer un nouveau Premier ministre. Ok. Bon. Les premiers ministres de droite ou de centre-droite ou macronistes, il a essayé plusieurs fois ces derniers mois et ça n'a pas marché, ça saute très vite, hein. Alors, de plus en plus vite. Donc, nommer un nouveau Premier ministre macroniste slash de droite, ça ne me semble pas une hypothèse possible. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il peut essayer ? Nommer un Premier ministre d'une des formations dans l'opposition, cette fois, forte à l'Assemblée, et qui se revendique comme victorieuse des dernières législatives. Qui affirme avoir gagné les dernières législatives ? Il y a deux camps. Il y a la gauche, hein, qui estime avoir gagné les dernières législatives, et le RN, qui dit « Non, c'est nous ». Bon. Alors, voici, pour moi, la première possibilité pour le président Macron. On oublie les premiers ministres macronistes de droite, et on nomme soit un homme de gauche, un homme ou une femme, hein, hein, socialiste, écologiste, pourquoi pas LFI, hein, soyons fous, hein, ou un représentant du RN. Ok ? Première possibilité. Deuxième possibilité, Macron dit « Non, je ne veux pas nommer un homme de gauche ou une femme de gauche ou un représentant du RN à Matignon. Je ne veux pas m'imposer cette cohabitation. J'en ai marre. Je dissous l'Assemblée. Encore. Je dissous l'Assemblée. Et j'en appelle aux Français pour nommer de nouveaux députés. Et on verra bien ce qui se passe. » Le problème, c'est que, vu la popularité du président Macron actuellement, ce qui risque de se passer, c'est que, il est encore moins de députés de son camp à l'Assemblée, que l'opposition soit encore plus forte. Voilà. Deux possibilités où l'opposition est encore plus forte, mais aucun camp n'a la majorité absolue ou relative forte pour gouverner. Hein, et dans ce cas-là, c'est le même bordel qu'aujourd'hui. Ou alors, législative, l'un des camps de l'opposition gagne une majorité absolue ou relative forte, qui permet de gouverner quand même, on va dire. Si c'est la gauche, ben là, Macron n'a pas le choix. Il nomme un Premier ministre de gauche et on rentre dans un truc de cohabitation qu'on a déjà connu à plusieurs reprises sous la 5e. Un président d'un camp et un Premier ministre d'un autre, ça, on sait que ça fonctionne. On l'a déjà vécu plusieurs fois, sous Chirac, sous Mitterrand, avec un président d'un camp et un gouvernement de l'autre. Et dans la réalité des faits, c'est le gouvernement qui dirige le pays. Hein, le président, il fait le beau, il essaye de rebondir pour le coup d'après. D'accord ? Ça, on sait comment ça fonctionne. La 5e République est assez claire là-dessus. Voilà. Cohabitation. Hein. Ou alors, c'est le RN qui l'emporte. Hein. Gauche ou RN. Et là, le Premier ministre, le président est obligé de nommer un représentant du RN à Matignon. Et on se retrouve avec une cohabitation, soit Macron-gauche, soit Macron-RN. OK ? Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. C'est la dissolution. Voilà. Mais qui est hyper aventureuse pour le président Macron. Il a déjà raté sa dernière dissolution. Je vois pas pourquoi il retournerait. Troisième hypothèse, le président Macron démissionne. Bon, il a toujours dit qu'il démissionnerait jamais, qu'il irait au terme de son mandat. Il a toujours dit ça. Voilà. Mais c'est de la politique. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Excusez-moi, on m'appelle. Je vais peut-être fermer mon WhatsApp là. On m'appelle de l'étranger en plus, c'est quoi ça ? Comme... Pardon pour les petits bips, c'est mon WhatsApp qui est ouvert, je vais le fermer. Ah, c'est peut-être le président qui m'appelle, ouais. Mais moi, je veux pas rentrer au gouvernement, moi, je veux être élu en 2027, on a un autre projet ici, quoi. Calme-toi, Nicolas Coste, qui est... Nicolas Coste est... Article 16, copier-coller, s'il vous plaît. Il faut absolument que tout le chat demande à Samuel si l'autre solution, c'est l'article 16. Alors là, on est plus dans les sphères un peu complotistes, un peu inquiètes, un peu... Mais on va l'explorer quand même, parce que après tout, comme je dis, en politique, tout est possible. Allons, on va aller voir dans un instant ce qu'est cet article 16. Un mot d'abord d'une éventuelle démission du président Macron. C'est quoi l'article 16? On va aller dessus dans un instant. Hein, la démission, le président Macron a toujours dit qu'il ne démissionnerait pas, mais là, il tire les conclusions de la situation politique. En gros... aujourd'hui, c'est ingouvernable. Il ne veut pas d'une cohabitation avec un Premier ministre de gauche ou un Premier ministre RN. Bon, bah, il ne lui reste pas 1000 solutions. La démission. La démission, et il y a une présidentielle. Et il y a une présidentielle. Et là, on est reparti, quoi. Présidentielle, nouveau président, nouvelle présidente de la République, qui dissout l'Assemblée, hein, puisque le cooldown des un an entre deux dissolutions est passé. Et ce nouveau président ou cette nouvelle présidente demande aux Français de lui donner une majorité à l'Assemblée pour qu'on retrouve un truc un peu gouvernable, quoi. Voilà. OK. Article 16. Allons voir l'article 16, puisque certains veulent en savoir un peu plus. Dans 11 minutes et 28 secondes, on devra avoir la déclaration de Monsieur Lecornu depuis l'Assemblée. À tout hasard, je vais quand même préparer, France Info. Une chaîne info, tu vois, si jamais on a un problème technique. Le live. Au cas où, tu vois, en secours. C'est où le... Ah, c'est le, la direct radio, direct TV. Voilà. Regardez le direct. Voilà. Voilà. À tout hasard, on a ça en préparation si jamais on a un bug technique. Voilà. Alors, article 16. OK, let's go. Ça nous permet aussi de voir comment on cherche des infos. Parce qu'on a quand même un... À l'heure d'Internet, on peut quand même avoir des outils incroyables pour trouver des infos de qualité. Encore faut-il savoir les chercher. Qu'est-ce que c'est l'article 16 de la Constitution ? Allons voir le Conseil constitutionnel. Bon, il est intéressant. C'est bon, sur TikTok, sur Twitch, vous voyez tout. Hein. Quel pouvoir donne le fameux article 16 de la Constitution au président de la République ? Parmi les pouvoirs de crise prévus par la Constitution du 4 octobre 1958, voulu à l'époque par le général de Gaulle et les constitutionnalistes qui l'accompagnaient, les plus connus sont les pouvoirs exceptionnels du président de la République figurant à l'article 16. On parle de pouvoirs exceptionnels, de pouvoirs de crise. La présence de cet article dans la Constitution s'explique par la mémoire constitutionnelle, en particulier par le souvenir de la crise épouvantable de 1940, parce que pour comprendre l'actualité, il faut connaître son histoire, hein. Il n'y avait plus moyen d'obtenir, dans les circonstances en 1940 où on était, un fonctionnement régulier des pouvoirs de la République, Charles de Gaulle. Lorsque le président de la République décide de recourir à l'article 16, ses pouvoirs sont particulièrement étendus. Toutefois, l'application de cet article ne saurait être maintenue indéfiniment, hein, donc il faut vraiment que ça ne dure pas très longtemps. Elle doit être une réponse temporaire à des situations de crise précisément identifiées. En outre, un double contrôle de ces pouvoirs exceptionnels peut être exercé, à mon avis, par le Parlement et le Conseil constitutionnel, mais on va vérifier. Alors, déjà, le recours à l'article 16 est la compétence exclusive du chef de l'État. Il l'exerce sans contre-seing, donc sans accord parallèle, du Premier ministre et de ses ministres. S'il décide d'appliquer cet article, il le fait seul. Mais ce recours est exceptionnel. Les conditions de fond posées par l'article 16 de la Constitution sont celles-ci. D'une part, une menace grave et immédiate des institutions de la République, de l'indépendance de la nation, de l'intégrité de son territoire, vous voyez, en cas de guerre par exemple, ou l'exécution de ses engagements internationaux. Il y a beaucoup de spécialistes de droit public, de constitutionnalistes qui disent les conditions d'application de l'article 16, aujourd'hui en France, elles ne peuvent pas s'appliquer. Il n'y a pas de menace grave et immédiate des institutions de la Ve République. Hein. Il n'y a pas un coup d'État qui menace. Hein. L'indépendance de la nation n'est pas menacée. Hein. L'intégrité du territoire français, a priori, non plus. Hein. Autre condition possible, l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il faut les deux. Les conditions de forme, maintenant, bon, il doit consulter d'abord le Premier ministre, le président des assemblées, le Conseil, mais il est juste obligé de consulter, et il doit informer la nation de ça. Donc la plupart des constitutionnalistes disent que les conditions d'application, donc la définition de la crise par l'article 16, ne sont pas réunies aujourd'hui, quoi. Voilà. Après, cet article du Conseil constitutionnel explique quels sont les pouvoirs exceptionnels du président de la République dans le cadre de l'article 16. Voilà. Qu'est-ce que peut faire dans ce cas le président ? C'est un espèce de super pouvoir. Hein. Il faut se mettre dans la peau de ceux qui ont pensé la 5e. On sortait de deux périodes politiques, 3e et 4e République, caractérisées par une instabilité politique extrêmement forte, voilà, avec des gouvernements qui duraient pas très très longtemps. Et Charles de Gaulle, lui, il souhaitait un exécutif fort pour la France, donc avec un président notamment avec des pouvoirs extrêmement forts, pour pouvoir prendre la main en cas de crise, quoi. Et cet article 16, qui a été utilisé une fois, je crois, par le général de Gaulle, mais à vérifier, on va vérifier tout à l'heure, cet article 16 est l'illustration de ce super pouvoir. En cas d'utilisation de l'article 16 par le président, il peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances. Voilà. Il peut prendre des mesures qui relèvent normalement de la compétence du Parlement. Donc, c'est-à-dire, en gros, édicter des lois. Exercer le pouvoir réglementaire sans solliciter le contreseing du Premier ministre et des ministres. C'est le patron, quoi. Alors, il y a des limites. Hein. Les mesures prises par le président au titre de l'article 16 doivent avoir pour objet de permettre dans les moindres délais aux pouvoirs publics constitutionnels d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel doit être consulté pour chacune des mesures. Le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Hein. Le président ne peut pas interdire au Parlement, notamment l'opposition, de se réunir. Le président ne peut pas engager ou poursuivre une révision de la Constitution. Donc cet article 16, il est quand même un petit peu encadré. Voilà. La durée des pouvoirs est exceptionnelle. Voilà, ça, la durée des pouvoirs exceptionnels, elle est très limitée dans le temps, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est encadré. Après 30 jours d'exercice de ce pouvoir exceptionnel, le Conseil peut être saisi par le président de l'Assemblée, le président du Sénat, des députés, des sénateurs. Voilà. Et le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans les plus brefs délais, au-delà des 30 jours, pour vérifier si l'application de l'article 16, les conditions demeurent réunies. Et au terme de 60 jours de ces pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel procède, sans avoir été saisi, à l'examen des conditions exigées par la Constitution et pour l'application de l'article 16. Voilà. Donc, et puis après, il y a un contrôle de ses pouvoirs. Est-ce que l'article 16 a déjà été utilisé dans l'histoire de la 5e défécateur officiel, notre ami nous le dit à l'instant. Oui, une fois, par le général de Gaulle, en 1961, suite à une tentative de coup d'État, quand même, à l'époque, hein, ce qu'on appelait le putsch des généraux en Algérie, voilà, qui étaient en fait ces généraux français, qui étaient en faveur de l'Algérie française, et opposés à l'indépendance de l'Algérie. Et donc, après ces tentatives de coup d'État, le président de l'époque, le président Charles de Gaulle, le général de Gaulle, avait utilisé l'article 16 pour prendre la main, quoi. Voilà. Dans un instant, on va aller là. Dans 4 minutes, normalement, le Premier ministre, démissionnaire, Sébastien Lecornu, va s'exprimer en direct, a priori depuis Matignon, pour expliquer aux Français et aux Françaises, et nous expliquer donc ce matin, pourquoi il démissionne. Voilà, c'est littéralement dans 3 minutes 51. On devra voir ça ici. Bon, j'ai mis un secours, si jamais on n'arrive pas à le choper, sur la chaîne YouTube du gouvernement, mais normalement tout semble fonctionner. Voilà, eh bien on ira sur France Info choper ce même live, parce que là je ne vois pas comment, dans un rendez-vous d'info tous les matins, on ne vit pas ce moment en direct. Est-ce que c'est le Premier ministre avec... Je réponds à quelques-unes de vos questions, il reste 3 minutes 24. Est-ce qu'on a du son, là? On verra bien. Est-ce que c'est le Premier ministre avec la plus courte durée de l'histoire de la 5e? Oui, quel Adriel. Monsieur Lecornu bat tous les records. C'est le Premier ministre qui aura mis le plus de temps à former un gouvernement. On est sur 24 jours, si j'ai pas de bêtises. On est sur le Premier ministre qui aura duré le moins longtemps. Donc 24-25 jours, voilà. Et on aura le gouvernement qui a duré le moins longtemps de la 5e, on est sur moins de 24 heures. Voilà. Là, parfois on galvaude un peu les mots et on utilise des mots très, très, très forts pour impressionner ou créer du buzz, mais là, on peut parler d'une crise politique. On peut parler d'une crise politique en France aujourd'hui. Je lis vos questions, 2 minutes 26 et on devra avoir le direct. Voilà, regardez, on voit sur France Info, là, le perron de Matignon, je suppose, là, avec cette image, on voit les micros qui sont prêts. Voilà. Je vais rafraîchir ça. 2 minutes 08. Est-ce que notre président n'est pas sourd à cette crise? Bah, en tout cas, Papa Manga, ce qui est intéressant, après cette déclaration de Sébastien Lecornu, c'est d'attendre maintenant, dans les prochaines heures, les prochains jours, la réponse du chef de l'État à cette crise politique. Je vous lis. Alors, je vois des questions dans le chat sur le fait, est-ce qu'il va toucher une rente à vie alors qu'il a été à Matignon que 25 jours? C'est intéressant comme question en vrai. Je n'ai pas en tête les conditions de rémunération maintenues ou pas des premiers ministres après une démission comme ça. Si vous voulez, je ferai une recherche pour demain. Voilà. Ou même ce matin si on a le temps. Mais d'après les infos que j'ai en tête, il n'y a pas de retraite à vie, quoi. Il n'y a pas de rente, quoi. Il y a une indemnisation pendant quelques mois s'il ne trouve pas d'emploi, mais il n'y a pas de rente à vie. Voilà. Il peut y avoir peut-être un truc au niveau de sa retraite, mais l'histoire de la rente à vie pour tout ministre ou premier ministre qui est resté même quelques jours en exercice, je crois que c'est une grosse fake news, quoi. Qu'on retrouve notamment sur les sites un petit peu conspirationnistes, mais on vérifiera. Oui, il y avait une histoire de chauffeur et de garde du corps. Mais Lecornu avait annoncé au début de sa prise de fonction là qu'il voulait baisser ses avantages. Là. Ouais. Bon, après, je ne sais pas si ça va s'appliquer, ça, parce que vu la durée de poste de Lecornu, je ne sais même pas s'il a eu le temps de prendre les décrets d'application de cette décision. On est à. Je vérifie. Hein. Voilà, ça devrait être parti là. Mais ça n'est pas non plus sur France Info, ça nous permet de vérifier. Donc un petit peu en retard. Suspense. Je vous lis. Notre ami Moulbit, modérateur de cette chaîne, est allé chercher les infos. Il n'y a pas de retraite à vie pour le Premier ministre. Il y a 3 mois d'indemnisation. 3 mois d'indemnisation à hauteur du salaire. Hop, rien sur France Info, rien sur le site du gouvernement, on attend. Ah, tu penses que Macron va faire quoi? On en parlait dans un instant, il y a 3 hypothèses possibles. On va attendre, on va attendre. Comment expliquer une démission si soudaine du Premier ministre demande Akiri? Un problème d'accord avec les membres des autres partis lors de la formation du gouvernement. Alors ça, Akiri, on en a déjà parlé tout à l'heure, effectivement. C'est l'une des hypothèses. Mais je pense que tu viens d'arriver. Ce que l'on sait, mais là, on ne sait pas tout, il nous manque des choses. Ce que l'on sait, c'est que les premiers ministres de droite qui avaient accepté de participer à ce gouvernement disaient depuis hier qu'ils voulaient démissionner, à peine nommés, notamment en apprenant que Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, macroniste, faisait partie de ce gouvernement et arrivait à la Défense. Responsable, selon la droite et l'extrême droite, de l'aggravation de la dette de l'État français. Et autre chose qu'on savait, la gauche, que ce soit LFI, les écologistes et sans doute les socialistes, préparait une motion de censure pour faire tomber ce gouvernement, mécontente de voir qu'aucune de ces propositions, notamment sur le plan fiscal, d'imposition notamment des ultra-riches en France, n'avait été retenue par ce gouvernement Lecornu. Voilà. Donc un gouvernement extrêmement fragilisé, à peine avait-il été nommé, ça c'est ce qu'on sait. Est-ce que cela suffit à expliquer cette démission express de Lecornu? Non. Voilà. La mission était compliquée, mais ça il le savait avant, donc il y a un truc qui me surprend, et moi j'attends d'en savoir un peu plus. Voilà. On avait annoncé. Le Premier ministre a annoncé à 10h45 une intervention en direct depuis Matignon. Vous voyez comme moi que pour l'instant, il n'y a personne. Bon, c'est imminent. Sur BFM, ils disent que ça peut accélérer une crise financière venant de notre dette. Oui. Pour être tout à fait précis, les marchés financiers, surveille quand même la situation politique en France avec attention. Pourquoi ? Parce que pour prêter de l'argent à l'État français, en fait, il faut avoir confiance dans ce pays, dans sa capacité à rembourser, sinon la dette, en tout cas les intérêts de cette dette. Donc, l'une des raisons pour lesquelles la note financière de la France, pour être précis, de la dette française s'est détériorée ces derniers temps, selon les agences de notation, c'est notamment parce qu'on a, on a une crise politique ici qui ne rassure pas les marchés. Donc, ce nouvel épisode assez costaud de cette crise politique, elle ne va pas rassurer les marchés. Donc, j'ai cru voir que la Bourse de Paris avait chuté ce matin, ce qui est pas une énorme surprise. De toute façon, elle est très très haute, la Bourse de Paris, là, elle est autour des 8000 points, donc que ça s'allège un petit peu, c'est pas une grande surprise. Est-ce que ça peut amener les agences de notation à détériorer encore la dette de la France et donc mécaniquement augmenter le taux d'intérêt avec lequel on prête à notre pays et donc augmenter la charge de la dette et donc augmenter notre dette. Ça commence ? Alors moi je l'ai pas. Et je l'ai pas sur France Info non plus. J'ai Marine Le Pen. Je l'ai pas là.
Être Premier ministre,
c'est parti.
Tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies.
Écoutez.
Depuis trois semaines, pourtant, j'ai tenté de bâtir les conditions pour lesquelles nous pourrions faire adopter un budget pour la France, pour l'État, mais aussi pour la sécurité sociale et répondre à quelques urgences importantes qui ne peuvent pas attendre. 2027, l'élection présidentielle, je ne veux pas toutes les citer, mais on le sait, sécurité du quotidien, les questions liées au pouvoir d'achat et au travail, la Nouvelle-Calédonie, les armées, dans un contexte international difficile, et tant d'autres sujets. Depuis trois semaines, ma parole a été rare, et j'ai tenté de construire un cheminement avec les partenaires sociaux, forces patronales, forces représentant les syndicats salariés, notamment sur des sujets qui ont pu faire l'objet de blocages depuis maintenant de nombreuses semaines, voire pour certains sujets. Je pense au travail, aux retraités, pardonnez-moi, à la pénibilité, aux femmes, aux carrières longues, des sujets qui sont parfois bloqués depuis plus de 20 ans et sur lesquels nous étions en train d'avancer sur des solutions concrètes, sur l'assurance chômage, sur le financement de notre sécurité sociale et permettre au fond des deux manifestations qui s'étaient tenues dans le pays tout au long de ce mois de septembre, d'être capable de refaire vivre le paritarisme et la démocratie sociale. Ce temps, je l'ai aussi consacré avec les formations politiques du socle commun pour bâtir une feuille de route, mais aussi évidemment de l'opposition, puisque c'est elle qui décide en grande partie du sort et de l'avenir non seulement du gouvernement, mais aussi du pays à travers l'adoption ou non d'un budget. Ces consultations officielles, parfois plus discrètes, nous ont permis d'avancer sur un certain nombre de sujets. Je l'avais dit vendredi matin, dans le secret du bureau, les langues se délient et les lignes rouges deviennent oranges et parfois vertes, avec parfois évidemment quelques lignes qui bougent sur l'assurance chômage, sur la question de la justice fiscale ou encore sur la question des retraites. Avec néanmoins toujours ce sentiment que la ligne se recule à chaque fois que nous avancions.
Après, je vous analyserai tout ça, mais là, on écoute.
J'y reviendrai dans un instant. Et puis, j'en suis arrivé à la conclusion vendredi dernier qu'au fond, le Parlement devait toujours avoir le dernier mot, que l'article 49, alinéa 3 de la Constitution était un moyen de contraindre sa majorité, dans l'esprit du constituant, notamment de Michel Debré et du général de Gaulle, et que cela ne servait à rien de donner l'impression que les débats n'irait pas jusqu'au bout. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Pour trois raisons.
Ah.
La première, c'est que précisément ces formations politiques ont fait mine parfois de ne pas voir le changement, la rupture profonde que représentait le fait de ne pas se servir de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y avait plus de prétexte pour une censure préalable. En tout cas, il n'y avait plus de prétexte pour faire que les parlementaires refusent de faire leur métier de parlementaire, c'est-à-dire de discuter la loi, de l'amender et le cas échéant de voter ou non un texte. Et cette rupture, je le dis, elle a été soulignée par un certain nombre d'observateurs, d'acteurs de la vie politique, certains opposants d'ailleurs qui le demandaient historiquement, mais elle n'a pas permis ce choc de se dire on peut faire différemment et on peut construire les choses différemment. La deuxième des choses, c'est que les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au fond, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais prêt à des compromis, mais chaque parti politique veut que l'autre parti politique adopte l'intégralité de son programme. C'est vrai des formations parfois du socle commun, c'est vrai aussi des oppositions. Or, nous l'avons dit, pas de coalition large, c'est un choix qui a été fait par les différentes formations politiques de l'opposition, de ne pas venir avec le socle commun au gouvernement, mais de permettre les débats et d'organiser ensuite les compromis, sachant que les compromis ne sont pas la compromission. Mais pour cela, évidemment, il faut changer d'état d'esprit et ne pas vouloir appliquer l'intégralité de son projet et de son programme. La troisième des choses, c'est que la composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans, parfois non sans lien, c'est d'ailleurs très légitime, avec la future élection présidentielle. Je le dis, ou je le redis, si ce moment est le moment le plus parlementaire de la Ve République, en aucun cas il faut revoir vivre ici les mauvais moments de la IVe République. Et que donc, par définition, la construction d'un gouvernement se fait en fonction de la Constitution, sur proposition du Premier ministre, nommé par le Président de la République. Le dernier message que je veux dire aux Français, c'est qu'au fond, et c'est un message véritablement d'espoir et d'optimisme, de caractère, je ne le suis pas toujours, mais il suffirait de peu pour que ça fonctionne. J'avais dit ici même, on va y arriver, et je veux le redire, dans le secret des échanges que j'ai pu avoir, il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. En étant plus désintéressé, pour beaucoup, en sachant aussi faire preuve d'humilité, peut-être aussi un peu parfois d'effacement de certains égos. Et je me suis employé, en tout cas je l'espère, à le faire. Ensuite, toujours avoir le sens de l'intérêt général et du fond. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. En ayant l'humilité de considérer que certaines choses peuvent être faites avant 2027, d'autres choses seront faites ensuite, pendant le débat de l'élection présidentielle. Et au fond, il y a beaucoup de lignes rouges dans la bouche de beaucoup, en tout cas de certains, pas de tous, pas de tous. Il y a rarement des lignes vertes. Or, le principe même de bâtir un compromis entre les formations politiques, c'est d'être capable justement de conjuguer des lignes vertes et de tenir compte d'un certain nombre de lignes rouges. Mais on ne peut pas être dans les deux extrêmes, et certaines formations politiques de l'opposition l'ont compris, et je tiens à les remercier. Désormais, il faut que l'on puisse avancer, en tout cas que celles et ceux qui veulent trouver un chemin pour le pays puissent avancer. Et le dernier point, et je le dis avec respect, moi qui suis un militant qui, au fond, est gravi les marches de la méritocratie républicaine grâce à l'élection comme maire, comme président de département, comme sénateur, je suis un militant et j'ai du respect pour celles et ceux qui s'engagent. Mais il faut toujours préférer son pays à son parti. Et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci à toutes et à tous. Ouf, merci.
La vache. Ouh, faut pas partir comme ça. Ouais, enfin, il a pas trop de choix, mais ça ressemble à la séquence de VGE et son au revoir, là. Ouais. Donc ça, c'est une allocution qui semble avoir été enregistrée, mais enfin, je sais pas, ou peut-être en condition directe. On va en parler. Extrêmement intéressant.
Tous, je vous remercie.
Hop. C'est quoi, on va commenter. On va commenter ce que nous venons d'entendre avec cette image-là. Alors, bon, évidemment, je n'ai pas commenté pendant cette allocution du Premier ministre, de l'ex-Premier ministre, puisque sa démission a été acceptée par le président Macron, pour pouvoir prendre des notes. Alors, c'est intéressant. On a appris des choses. Voilà. On n'a pas la réponse à toutes nos questions. À toutes nos réponses. Oui, c'est ça, toutes nos questions. Je vous rappelle les propos essentiels de M. Lecornu à l'instant. Il a rappelé ce qu'il avait fait pendant 3 semaines. Hein, il a essayé de construire un programme de gouvernement. Il a parlé des consultations qui ont permis d'arriver à ce gouvernement qu'il a nommé hier. Il rappelle, on n'en avait pas parlé ce matin, que vendredi, il avait annoncé aux oppositions, notamment, qu'il s'engageait à ne pas utiliser le 49.3, hein, cet article de la Constitution, 49 alinéa 3, qui permet de faire passer un texte au Parlement sans vote du Parlement, mais qui, du coup, engage la responsabilité du gouvernement. 49.3, dont l'utilisation est régulièrement décriée, dénoncée par les oppositions. Et un peu plus tard, il reparle du 49.3, c'est extrêmement intéressant d'ailleurs. Donc il rappelle ça, voilà, et on va comprendre pourquoi il l'a rappelé, parce que dans sa pensée, c'est assez important, ça motive le pourquoi de sa démission. Et il dit dans la foulée, donc moi vendredi, j'ai dit je n'utiliserai pas le 49.3, et il dit je regrette que les oppositions, les formations politiques, dit-il, donc pas seulement les oppositions d'ailleurs, parce qu'il a mis pas mal de balles perdues pour ce que lui appelle le socle commun, c'est-à-dire son propre camp. Voilà. Il estime que les formations politiques, à mon avis, mais à mon avis aussi, l'opposition, mais à mon avis aussi, les formations du socle commun, comprenez les macronistes et la droite, pour faire simple, que ces formations politiques ne se sont pas rendues compte de cette nouvelle donne, n'ont pas pris conscience de l'importance de cette nouvelle donne qui était l'engagement par un Premier ministre de ne pas utiliser le 49.3 en disant, à partir du moment où je dis que je n'utilise pas le 49.3, on ne devrait plus préparer des motions de censure a priori. Hein. Mais on devrait attendre que, comme il n'y a pas 49.3, mais que les textes arrivent au Parlement, et que eh bien, le débat s'engage sur le texte en disant bah, je vais le voter, pas le voter, est-ce qu'on peut l'amender, est-ce qu'on peut le modifier, est-ce qu'on peut l'améliorer. Puisque, comme il n'y a pas 49.3, ce texte il passe forcément par le Parlement. Donc il dit, en gros, ne pas comprendre pourquoi LFI, pourquoi les écologistes, pourquoi les socialistes préparaient des motions de censure, a priori, donc avant même que les textes ne soient pas présentés au Parlement. Ça, c'est son... Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, je vous explique son argument. Voilà. Je cite, « Les formations politiques ne se sont pas rendues compte du changement provoqué par cet engagement que j'ai pris, hein, de ne pas utiliser le 49.3, et donc, voilà, il estimait qu'il n'y avait plus besoin de faire des motions de censure. Les motions de censure, elles pouvaient se faire a posteriori, après que les textes aient été présentés au Parlement. Voilà. Il regrette que ça n'ait pas été compris. Il dit aussi, alors il a beaucoup critiqué les partis. Les partis. Voilà. Il a notamment dit, c'est son deuxième point, le premier point il est sur le 49.3, parce qu'en gros sa démonstration elle tient en trois points. Pour ceux qui nous rejoignent et qui se demandent pourquoi Sébastien Lecornu a démissionné moins de 24 heures après la nomination de son gouvernement, ce qui est un record sous la 5e, il a mis trois explications en avant. Un, l'histoire du 49.3 qui n'aurait pas été compris par les oppositions. Deux, le fait que les partis se comportent comme si chacun avait la majorité absolue. Comme si chacun devait absolument imposer ses idées aux autres, alors que aujourd'hui, aucune formation politique, c'est vrai, pour le coup, n'a la majorité à l'Assemblée. Et donc il dit, il faut, dans une situation qui est celle que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire où aucun camp n'a une majorité pour gouverner à l'Assemblée, eh bien, dans cette nouvelle donne politique qui caractérise le paysage politique français depuis quelques années, hein, alors que jusqu'ici, c'était le fait majoritaire, le fait majoritaire, c'est l'histoire de la 5e de 58 à il y a encore quelques temps, où en gros l'exécutif a toujours une majorité absolue ou relative pour soutenir sa politique et gouverner. Bon, ce fait majoritaire, il a vécu. Nous n'avons plus des exécutifs soutenus par une majorité au Parlement. Et donc, il y a plein de gens, et pas seulement Lecornu, qui disent puisque le jeu a changé, il faut de nouvelles règles du jeu. Et donc, il faut aller vers un fonctionnement plus parlementaire que connaissent déjà beaucoup de pays dans le monde, notamment en Europe, avec des partis opposés certes, mais qui se parlent, qui cherchent à faire des concessions, qui cherchent à faire des compromis, voilà. Parfois à former des coalitions, comme chez nos amis belges et allemands, par exemple. Voilà. Et ça n'est pas une tradition politique en France, en tout cas sous la 5e. Les partis n'ont pas été habitués à faire cela, puisqu'ils n'ont jamais eu besoin de le faire. Hein, en gros, jusqu'à quelques temps, en France, c'est présidentiel, quelqu'un gagne de droite ou de gauche, et puis il a une majorité au Parlement, il gouverne, et l'opposition, elle n'a qu'à attendre l'élection suivante. Aujourd'hui, ça n'existe plus, et donc plein de gens disent, puisque ce fait majoritaire n'existe plus, il faut que les partis se parlent, par exemple pour former des coalitions, pour malgré les oppositions, eh bien, on arrive à quand même à gouverner ce pays. Donc, voilà. Et donc, le constat de Le Cornu, c'est que ce changement d'état d'esprit des participants à notre jeu politique, hein, les partis, eh bien, ce changement d'état d'esprit, il n'a pas eu lieu. Deuxième point. Troisième point, et là, il a envoyé des petites balles aussi vers son propre camp, hein, le programme... Le socle commun, la composition du gouvernement au sein du socle commun a été difficile, en raison notamment des ambitions présidentielles, pense-t-il. Voilà. Il dit, en gros, il dit que au sein de ce socle commun, au sein donc, du camp macroniste comme de la droite qui menaçait de démissionner, de quitter ce gouvernement, en fait, les ambitions politiques des uns et des autres ont fait que voilà, on n'a pas mis de mouchoir sur les ambitions présidentielles, les ambitions de chacun. La preuve, certains menaçait déjà de démissionner du gouvernement alors qu'il venait à peine d'être nommé, quoi. En gros, il renvoie aux égoïsmes individuels et politiques de chacun, des oppositions et de son propre camp en disant « Écoutez, moi, je vous ai proposé une méthode, vous n'avez pas voulu vous en saisir, quelque part, c'est de votre faute. » Défécateur nous dit « Oui, mais Samuel Toussaint le savait avant de nommer un gouvernement hier soir, donc le vrai déclic, ce sont les réactions de la composition du gouvernement. » Bien sûr. En fait, il a espérer que son constat soit partagé par les autres acteurs politiques, membres du socle commun comme opposition, et en fait, ça n'est pas le cas, quoi. Donc, il tire les conclusions de tout ça. Il dit, puisque je suis le seul à vouloir ça, donc ça ne fonctionne pas, hein, il l'a dit au tout début de son intervention, les conditions ne sont pas réunies, pour que je puisse gouverner. Ouais. Voilà. Et donc, il finit par une adresse aux Français, par un message aux Français. Il suffirait de peu pour que tout cela fonctionne, hein, ce qu'il a décrit, c'est-à-dire entre les lignes, c'est-à-dire un fonctionnement plus parlementaire de la 5e, de ce régime de la 5e République, en étant plus désintéressé, qui ? Les partis politiques, les hommes et les femmes politiques, en ayant plus le sens de l'intérêt général, en pensant moins à leur parti et plus à l'état supérieur de la nation, aux Français. Il a beaucoup parlé de lignes rouges et de lignes vertes. Il dit qu'au sein des partis aujourd'hui, il y a trop de lignes rouges et pas assez de lignes vertes, quoi. Dernier point, il faut toujours préférer son pays à son parti. Voilà. Donc, tout ça, vous l'avez entendu, mais j'ai voulu vous le résumer. OK. Alors, qu'est-ce qui est positif dans tout ça ? C'est qu'on comprend, on valide peut-être pas, mais en tout cas, on comprend la déclaration était relativement claire. On comprend le pourquoi de la démission. Enfin, on comprend les motivations. Enfin, on comprend l'explication, elle est claire. Après, il y a plein de questions en suspens. Défécateur le disait, je vous le disais juste avant. Ce contexte politique extrêmement compliqué, au moment où il accepte sa mission, il le connaît. Il sait qu'il n'y a pas de majorité. Il sait que la mission que lui donne le président de la République est quasiment une mission impossible. Il sait que ça va être un enfer. Et il y va quand même. Il accepte cette responsabilité, il accepte de former le gouvernement. Ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est « Ok, des ministres de droite menacent de démissionner. » Bon, bah, la politique, c'est un monde où tu prends des coups, c'est un monde qui est difficile. Bon, bah, tu dis « Ok, je prends acte de la démission de ces ministres, bah, j'en nomme d'autres, tant pis pour LR, et puis j'essaye d'avancer. » Et je rappelle que j'utiliserai pas le 49.3 et je vais vous présenter des textes au Parlement, à l'Assemblée, bah, puis vous voterez en votre âme et conscience. Voilà. La gauche prépare des motions de censure ? Ok. Et alors, des gouvernements qui ont vu des motions de censure leur être opposées, il y en a eu plein. Voilà. De toute façon, ces motions de censure de la gauche, elles ne peuvent être votées, provoquer le renversement du gouvernement, que si d'autres voix viennent s'y allier, venant de la droite et du Rassemblement national. Donc, cette motion de censure, c'est pas parce qu'elle est préparée qu'elle passe. Donc, il pourrait dire, bah écoutez, il y a des motions de censure, on va vous les préparer si vous voulez. Je le regrette parce que je pense que c'est une connerie, mais peut-être que vous n'aurez pas de majorité, donc j'essaie de gouverner. Voilà. Il y a une logique dans tout ça. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, la difficulté de l'équation politique, il la connaissait avant. Les difficultés, elles se matérialisent, hein, avec un camp macroniste de droite qui est un peu rebelle, qui est un peu rétif, qui ne lui obéit pas comme lui il aurait voulu qu'on le suive, et une opposition qui fait son travail d'opposition. Et il semble découvrir Il semble découvrir. Donc, alors est-ce qu'il a mal mesuré la complexité de sa mission? Est-ce qu'il a péché par excès d'optimisme en disant c'est compliqué, mais je vais quand même y arriver, il y a un trou de souris par lequel je vais pouvoir me glisser? Moi, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, mon analyse aujourd'hui pour la résumer, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas essayé. Voilà. Pour résumer ma pensée. J'ai l'impression qu'il n'a pas essayé. Aujourd'hui, rien ne le mettait dehors. Le président ne lui a pas demandé de démissionner. C'est à voir d'ailleurs. Mais a priori, c'est une proposition de démission qui part de lui. La motion de censure, elle se préparait, mais elle n'était pas votée. Les ministres de droite menaçaient de démissionner, mais ils ne l'avaient pas encore fait. Et puis, de toute façon, un ministre, ça se remplace. Donc moi j'ai l'impression que là on a un Premier ministre qui finalement nous dit ce lundi matin les conditions pour gouverner ne sont pas réunies, mais qui n'a pas vraiment essayé. Alors je peux totalement me tromper dans cette analyse, et peut-être qu'il manque des informations, mais c'est mon analyse à l'heure où on parle ce matin 11h09, ce lundi 6 octobre 2025. Merci pour tous les soutiens, je vous remercie pour les subs. Voilà. Alors après, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas, notamment le rôle du président Macron dans tout ça. Parce que moi je me pose une autre question. Le Premier ministre propose sa démission au chef de l'État qu'il a nommé. Le président peut refuser cette démission. Il peut dire hey, Sébastien, t'es gentil, t'as un petit coup de calgon, t'as un petit coup de moins bien, t'as un petit coup de mou, ça arrive. Hein? Mais je t'ai nommé, la mission est compliquée sinon impossible, mais tu l'as accepté, on y va et t'essayes. Voilà. Or, le président, et moi, c'est une autre de mes surprises et de mes interrogations, il accepte cette démission. Il accepte cette démission. Donc, est-ce qu'il y a un... Pourquoi? Ça, je sais pas. Ça, pour moi, c'est un vrai mystère. Et là, il nous manque. Et là, il faudrait qu'on soit dans... Il faudrait qu'on puisse écouter la conversation téléphonique entre Macron et le cornu, ou la rencontre. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Là, il me manque un truc. Pourquoi il accepte, je sais pas. Parce qu'en fait, pour le président Macron aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu de faiblesse politique. C'est-à-dire qu'il vient de nommer un Premier ministre qui lui claque dans les doigts, qui dit 24 jours, 25 jours après sa nomination, le job est impossible, je me barre, quoi. Pour le président Macron, c'est un échec politique majeur, hein, qu'il n'essaye pas de retenir le cornu à son poste. Qu'il accepte cette démission, ça je ne comprends pas. Donc voilà. Est-ce que c'est le cornu qui a été intraitable en disant est-ce que le président a essayé de le retenir et que le cornu lui a dit non, mais va te faire foutre ton job, il est impossible, je m'en fous quoi. Je vais aller jouer aux boules. Ça je sais pas. Ça c'est très intéressant. Là on est sur une histoire d'homme et d'ambition. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour conclure et avancer un petit peu, hein, c'est donc une crise politique, c'est un échec. Pour le président Macron, maintenant, que va-t-il faire? Diesel dit, il faut que Macron parle. Oui. Alors après, ce qui serait encore plus un aveu d'échec, c'est que le président Macron parle très vite. Hein, ça voudrait dire que vraiment, il est totalement en panique, reconnaîtrait le fait d'être dans une panade et dans une crise gigantesque. Voilà. Donc parler sous le coup de l'urgence, sous le coup de l'émotion, sous le coup de la crise. On dit souvent que le président Macron aime être maître des horloges. Tous les présidents de la Ve sont comportés ainsi, en prenant parfois un petit peu le temps. Voilà. On a beaucoup reproché au président Macron de prendre énormément le temps pour nommer ses premiers ministres, par exemple. Voilà. Deux choses. Ou il parle très très vite. S'il parle très très vite, c'est que il y a un truc qui s'est préparé, dont on n'a pas les infos, peut-être depuis quelques jours. Alors on va renommer ces pistes-là. Et puis, s'il prend le temps, ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à cette démission. Voilà. Et qu'il faut qu'il trouve une solution. Et les solutions, je peux vous les exposer de nouveau rapidement. Ça fait plus quelques semaines déjà que je vous les expose. Les solutions, il n'y en a pas mille. C'est un. Le président Macron nomme à nouveau un homme de droite ou macroniste comme les premiers ministres précédents, hein, donc Le Cornu, Bayrou, je sais plus, rappelez-moi les noms, moi je sais plus combien il y en a eu, je suis un peu perdu, il y a eu Gabriel Attal aussi un petit peu, enfin bref. Donc même profil, mais même profil, ça finira pareil, hein. Barnier, oui, j'avais oublié Barnier. Ou le président nomme un premier ministre d'un autre camp. La gauche qui revendique avoir gagné les dernières législatives et accepte une cohabitation avec un gouvernement de gauche qui va mener une politique de gauche, avec un gouvernement de gauche qui essaiera d'être soutenu par une majorité à l'Assemblée pour mener une politique de gauche en France. Cohabitation, ça s'est déjà passé dans le passé, sous la 5e, on sait que ça peut fonctionner. Voilà. Enfin, on sait que ça peut fonctionner, ça a fonctionné dans le passé avec un gouvernement qui n'est pas du même bord politique que le président, mais un gouvernement qui a une majorité à l'Assemblée. Or, la gauche aujourd'hui n'a pas la majorité à l'Assemblée, la majorité absolue, ou la majorité relative forte. Autre hypothèse, autre camp qui revendique avoir gagné les dernières législatives, le Rassemblement national. Le président Macron accepte une cohabitation avec le RN en nommant une personnalité d'extrême droite, Rassemblement national, à Matignon. Voilà. Une cohabitation Macron-RN serait de la gueule. Hein. Ça va crier dans les couloirs. Hein. Ce serait très intéressant à suivre. Même problème, le RN n'a pas une majorité absolue ou relative forte à l'Assemblée pour gouverner. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes circonstances que les cohabitations précédentes, qui se sont relativement bien passées sur un plan institutionnel. C'était assez clair. Voilà. Salut Yass, tu vas bien? Il y a Yass encore qui est avec nous, notre ami Yass encore, qui me demande, à ton avis, quelle est l'hypothèse la plus probable? Je finis avec les hypothèses et je vous donne mon avis sur l'hypothèse la plus probable. Donc on a dit, nouveau Premier ministre de droite ou de centre-droite, Premier ministre de gauche, Premier ministre RN, voilà. Autre hypothèse, dissolution de l'Assemblée. Les Français sont appelés à revoter pour élire leurs députés en espérant, pour le président Macron, une majorité relative et absolue pour soutenir sa politique. Mais c'est impossible au vu de la popularité actuelle du président. Donc ce qui risque de se passer, c'est que ou l'un des partis d'opposition arrive à prendre la majorité à l'Assemblée. La gauche ou le RN, bon, ça, ce sera le fruit de la campagne pour les législatives. Hein. Je ne vais pas vous annoncer le résultat des élections avant qu'elles se tiennent. On est dans un pays démocratique. Donc, ou l'une des formations d'opposition arrive à prendre la main. Et dans ce cas-là, bon, ben, le président n'aura d'autre choix que de nommer le Premier ministre issu du camp qu'aura gagné, gauche ou extrême droite. Hein. Évidemment, je ne postule pas que la droite républicaine LR ou les macronistes peuvent gagner ces législatives. Hein, c'est juste impossible. Ou alors, les Français votent et reconduisent l'état actuel du Parlement avec des grands blocs, un Parlement divisé et aucun bloc qui n'a réellement une majorité. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de nouvelle législative, le camp du président va être encore plus faible qu'avant. Il n'y a aucun monde où les députés se réclamant du camp présidentiel peuvent être plus nombreux en cas de législative. Voilà. Donc, cette dissolution... Ah, bon, après, je vais vous donner mon avis sur la faisabilité ou la probabilité de tout ça. Et puis, dernière hypothèse, c'est la démission du président de la République, qui a exclu. Hein, le président Macron a dit à plusieurs reprises qu'il irait au bout de son mandat. Hein, quand tu fais de la politique, quelque part, c'est... Tu prends rendez-vous avec l'histoire. Quand tu fais de la politique, quand tu es élu... président de la République, tu sais que ton nom rentre dans l'histoire, rentre dans les manuels d'histoire. Voilà. Être le deuxième président de la République à démissionner, puisque le général de Gaulle l'a fait en 1969, hein, peut-être que le président Macron ne veut pas rentrer dans l'histoire comme un président démissionnaire. Alors Charles de Gaulle, lui, a démissionné en 69, hein, à l'époque, une majorité de Français ne voulait plus de De Gaulle. C'est difficile à croire aujourd'hui que tout. On a beaucoup idéalisé De Gaulle, mais une grosse partie des Français ne voulait plus de De Gaulle en 69. après mai 68. Et puis en 69, il y a un référendum proposé par le général de Gaulle sur la, je crois, la réforme du Sénat. Et puis je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait deux, trois questions. Les Français votent non au référendum, davantage en votant non à de Gaulle d'ailleurs que sur les questions posées. Souvent, le référendum est aussi un prétexte pour les Français aussi de dire ce qu'ils pensent du pouvoir qui pose la question. Donc les Français votent non à ce référendum et de Gaulle, dans une position très gaullienne, dit les Français veulent plus de moi, et ben je me barre. Il démissionne. Voilà. Alors, est-ce que le président Macron, à un moment, va dire les Français ne veulent plus de moi, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour gouverner de façon normale, comme vient de le dire le cornu, je démissionne. Voilà. En se revendiquant d'une espèce d'un genre de position un peu gaullienne, tu vois, moi je peux vous écrire le discours du président Macron. En mode comme le général de Gaulle l'a fait en 69, à mon tour, voilà, pour le bien de la France, quelque part, je décide de démissionner. Voilà. Et là, il y a une nouvelle présidentielle et c'est reparti aux Français de décider. Voilà. Alors maintenant, Yass, notre ami Yass, nous dit, alors Samuel, selon toi, quelle est la piste la plus probable? Alors là, j'ai pas de boule de cristal. On est dans un domaine où tout est possible. Et toutes ces hypothèses sont possibles. Le président Macron peut s'entêter, nommer encore un homme, ou une femme d'ailleurs, macroniste ou de droite à Matignon. Le cornu a dit que ce n'était pas possible, peut-être que lui va estimer qu'un autre peut réussir. Ok ? Il peut créer la surprise et nommer un homme ou une femme de gauche à Matignon, et on voit ce qui se passe. En tout cas, ça n'a pas été essayé. Il peut essayer de nommer un homme ou une femme du RN à Matignon en se disant, merci Greg Istou, je vais remercier tous les subs dans un instant, vous êtes fous, en se disant en se disant notamment que cet exercice du pouvoir va affaiblir le RN, hein. C'est toujours plus facile d'être populaire dans l'opposition quand on exerce le pouvoir. Le RN n'a jamais exercé le pouvoir au niveau national, hein, au-delà des mandats locaux. Allez, mouille-toi. Mais on n'est pas sur un... Il y a Makelele du 28, notre célèbre joueur de football, qui dit « Mouille-toi, hé chouchou, on n'est pas au PMU, là. Hein ? J'ai pas de boule de cristal. Moi, je vous annonce pas le résultat des élections, je vous annonce pas les décisions des responsables politiques. Hein. » C'est pas... Les gars, on n'est pas au PMU, là. On n'est pas à l'apéro. On dit « Ouais, moi, je vais vous dire ce qui va se passer. » Bon, comme tout le monde est bourré, tout le monde va oublier le lendemain, mais si personne n'est bourré. Moi, je vais pas vous faire des pronostics, ça a aucun sens. Voilà. Tout est possible. Tu veux mon call ? Tout cela est possible. Tout cela est possible. Donc il peut nommer quelqu'un du RN en espérant que l'exercice du pouvoir affaiblisse le RN et que du coup, il ne gagne pas la présidentielle de 2027. Okay. Il peut... Alors dissoudre l'Assemblée, j'y crois pas du tout. À moins qu'il décide de dissoudre l'Assemblée... En reprenant les arguments d'une éventuelle démission pour lui en disant « je dissous l'Assemblée, je sais que ça va être très compliqué pour moi parce que j'aurai sûrement pas de majorité, mais voilà, je demande aux Français une clarification du paysage politique. Voilà, votez pour qui vous voulez et j'en tirerai les conclusions. » Oh putain, s'il fait ça... Et en plus, alors s'il fait ça, il se venge du camp macroniste et de la droite LR qui, selon le cornu, n'ont pas joué le jeu là. Parce qu'en fait, les macronistes et les députés LR, ils savent qu'en cas de nouvelle législative, ils peuvent revenir encore moins nombreux. Quoi. Voilà. Et là, il sait que les grands gagnants a priori de nouvelle législative, c'est plutôt la gauche et le RN. Ouais, ça. Ou alors ils démissionnent. Voilà. Et alors celui qui vous dit là, aujourd'hui, sur un plateau télé, hein, sur une chaîne internet, ou au café ce soir, que lui il sait, et il vous dit, bah Macron il va faire ça, bah, je peux vous dire que ça c'est du flan, puisque y a une seule personne qui sait aujourd'hui ce que va faire Macron, et il s'appelle Emmanuel Macron, et je ne suis pas dans la tête de Macron. Par contre, vous avez les clés maintenant pour analyser la décision de Macron qui va tomber dans les prochains jours, les prochaines heures, ça je ne sais pas. Et si ça se trouve, lui-même ne le sait pas encore. Défécateur n'a pas tort. Si ça se trouve, Emmanuel Macron ne le sait pas lui-même. Oui. Voilà. Bon, les amis, je crois qu'on a fait le tour, hein, ce matin, là. Vous en pensez quoi ? de ce sujet-là. Je vous lis un petit peu. Je vais remercier, pardon, j'ai eu beaucoup de subs depuis tout à l'heure, j'ai remercié personne. Natsumiko, merci. Zephyr, merci. Dylan, merci. Gregistou, merci. Perti, Puce, merci pour l'abonnement offert à la commune. Draxla, un grand merci. Chabalbert, le seigneur des cailloux, merci à tous les deux. Julien Doux, merci. Merci pour ta question, je pense qu'on y a répondu. Jafar, Engie, Yann, Arti, Firmuche, Xavs de Master, Sulivage, Pierre-Yves. Voilà, j'en ai oublié sûrement beaucoup. Merci Viande Pourrie, merci Papy, merci Tagada. Merci pour tout vos soutiens. Merci Sophia, c'est gentil. Bon, en tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour ce matin du truc, quoi. Gouvernement technique, non. C'est une bonne question de Parsec. Gouvernement technique. Qu'est-ce que c'est un gouvernement technique? C'est un gouvernement qu'on va présenter comme un gouvernement de non-politique. Hein, c'est une idée qui pop de temps en temps en disant « Ah ouais, mais pour qu'on nomme des politiques, on ferait mieux de nommer des techniciens, des spécialistes, des ultra-spécialistes d'un sujet. Hein. Fini, on nomme pas de macronistes, de gens de droite ou de gauche, on nomme des spécialistes. Hein. Allez hop, un ingénieur à l'industrie, un médecin au ministère de la Santé, un spécialiste des questions d'éducation. Alors sur le papier, ça semble une super idée. Hein, c'est, voilà. Et en fait, c'est une idée complètement conne. Je vais vous expliquer pourquoi. Merci Carla, merci McLovin, merci Jocelyne, merci Jocelyn, pardon, merci Giggs, merci Antosu. Pourquoi ? Ça a l'apparence de la bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. C'est quoi un gouvernement technique ? Bah, c'est nommer des gens qui soi-disant n'ont pas d'engagement politique. Tous les gens que vous allez nommer dans les ministères, tous spécialistes ils sont, bah, et en fait ils ont une couleur politique, ils ont un vote, ils ont des valeurs, et au regard de leur parcours, forcément ils ont. Voilà. Donc tout est politique. Donc. Derrière le technicien que vous nommez, il y a un politique. Notamment quelqu'un qui peut avoir une ambition politique assez vite une fois qu'il est nommé ministre. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, c'est pas parce que tu nommes un ultra spécialiste d'une question qu'il va être un bon ministre. Tu peux être un très bon médecin et être un très piètre ministre de la Santé. Il y a des exemples dans l'histoire. Tu peux être un ancien athlète de haut niveau et un ministre des Sports assez moyen. Tu peux être un économiste, un très bon économiste, et un très mauvais patron de Bercy. Pourquoi ? Prenons l'exemple de l'économiste. Vous allez me dire, on va nommer un économiste à Bercy, au ministère de l'économie, c'est une très bonne idée. Mais les économistes, ils sont d'accord sur rien, les économistes. Tu vas nommer un économiste, quel type d'économiste tu nommes ? Un libéral ? Un social-démocrate ? Un keynésien ? Quelqu'un qui estime que la dépense publique, c'est vertueux ? Quelqu'un qui estime que la dépense publique en France, elle est trop importante ? Un économiste qui veut absolument défendre notre système de retraite par répartition, qui veut aller vers un autre système de retraite ? Quel économiste tu nommes ? C'est un technicien, mais lequel tu nommes ? Voilà. Et cette question, tu peux la poser pour tous les sujets. Donc le gouvernement technique de technicien, je n'y crois pas, c'est à l'apparence d'une bonne idée, ça n'est pas une bonne idée. Tu nommes un gouvernement de techniciens, en fait c'est un gouvernement politique comme les autres. Merci Citron Violet pour ce raid incroyable, merci beaucoup. Vous tombez sur une matinée Étienne spéciale démission de Sébastien Lecornu qui a démissionné ce matin, on l'a pris en direct quelques minutes après le lancement de cette revue de presse, il était 9h45 par là. Voilà. On a attendu la déclaration du Premier ministre Lecornu en direct de Matignon, là qu'on a react, et on a évoqué ce qui allait pouvoir se passer maintenant. Voilà. Merci Kaepora, merci Harry Lash. Merci VB Fox. Merci Carla, merci La Joueuse, merci Victor, merci Dorian. Bon, ce qui est formidable, c'est qu'en plus, c'est la commu qui m'a annoncé la démission de Lecornu. On était en train de lire un papier du Parisien qui évoquait. Toutes les difficultés que Lecornu rencontrait en ce moment, notamment depuis la nomination de son gouvernement hier, et alors qu'on lisait les premières lignes de cet article, dans le chat, certains commençaient à dire voilà, Lecornu vient de démissionner. On est allé vérifier, on a vérifié l'info et on a commencé à l'analyser, ce qu'on a fait assez longuement ce matin. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain matin. La revue de presse n'est pas terminée, on va parler du reste de l'actualité, bien sûr. Je vous donne rendez-vous demain matin dans la revue de presse pour la suite des faits, ou peut-être dès cet après-midi, ou dès ce soir. Bon, j'ai pas mal de boulot en ce moment parce que j'ai un gros stream, à préparer. un gros stream à préparer. Demain soir, voilà. Mais si à un moment, il se passe des choses cet après-midi ou ce soir, déclaration du président Macron, enfin des choses importantes. Évidemment, je vous refais un truc d'actu cet après-midi et je vous fais un truc ce soir, quoi. On trouvera bien le temps, quoi. Mais sinon, si c'est pas le cas, eh bien, je vous retrouve demain matin pour la revue de presse où on aura 200 000 articles d'analyse de ce qui vient de se passer et je pense qu'on sera pas très loin de tout ce qu'on s'est dit ce matin. Voilà. Je vous rappelle, d'ailleurs. Attendez, est-ce que vous l'avez ici? Ah, ça c'est autre. Tiens, je vous le montre. Hop. Voilà. Ami TikTok, ami Twitch, je vous montre d'ailleurs ce stream auquel je vous invite demain soir, parce que c'est mardi soir, 20h. Pour le coup, c'est vraiment mon gros stream de la rentrée. Voilà, c'est un peu mon GP Explorer à moi. Il y a moins de voitures, il y a moins de gens. Et on fera peut-être pas 1 500 000 viewers. Mais c'est mon rendez-vous important de cette rentrée. C'est mon plus gros stream. C'est plusieurs semaines, plusieurs mois de travail. On a avec les gens avec qui je travaille sur Twitch, avec Joe notamment, avec Lou. Hein, on a créé un nouveau jeu. On a invité, bien sûr, Julien, vous êtes invité. On a inventé un nouveau jeu. C'est un one shot, c'est un jeu événementiel. Hein, il n'avait pas vocation à revenir. Voilà, qui s'appelle le bingo. Donc le bingo, vous savez, on tire des boules, hein, dans un boulier. Et donc là, mardi à 20h, on a ce jeu avec 3 invités, avec Jiraya, avec Elidia et avec DFG. Et donc, on va tirer des boules. Voilà, et les boules, chaque boule tirée nous donnera ou un quiz ou un mini-jeu. Il y a 25 boules, il y a 25 quiz, 25 mini-jeux. On en tirera peut-être 14 ou 15. Voilà. Et on va jouer avec donc nos 3 invités, on va jouer avec le public, parce que ce jeu sera en public, on fait ça dans une grande salle de cinéma parisienne, et donc il y aura 50, 60, 70 personnes dans le public qui auront, qu'on appelle ça les trucs de bingo, là, les feuilles de bingo, voilà, qui vont essayer de faire des bingos. Donc avec 5, je crois, numéros en vertical, en horizontal, les grilles, voilà, ou en diagonale, voilà, et donc il y a jusqu'à 4 personnes dans le public qui pourront gagner des écouteurs AirPods Apple 3, là, les derniers, voilà. Voilà, donc ça, c'est pour les gens qui ont réussi à avoir une place dans le public, hein. C'est un appel que j'ai lancé il y a quelques jours. Et dans le chat, il y aura aussi des choses à gagner, puisqu'en fait, chaque invité là, les AirPods 3 Pro, c'est ça, j'ai bien dit. J'ai dit quoi? J'ai dit une connerie, non? J'ai dit EHPAD. J'ai dit EHPAD. J'ai dit les AirPods. Merde. Les AirPods, putain, merde. Putain, j'en ai en plus. Oui, les AirPods. Oh, j'ai dit les AirPods comme EHPAD. Oh, putain, merde. Ah ouais, j'ai mixé AirPods et iPad. Ah ouais, ouais. Non, alors, c'est bien des AirPods. Hein, c'est pas des trucs pour les EHPAD. J'ai dit les AirPods. Ah putain, ouais, ok. Ouais, ah oui, parce que à la maison de retraite, on parle beaucoup de ça, mais c'est pas les mêmes. Donc, c'est bien les AirPods. Voilà. Les 3, là, ceux qui traduisent, là. Donc, ça, c'est pour le public sur place, ok. Et attendez, les communautés de chacun de ces streamers pourront jouer aussi, puisqu'en gros, celui qui fera top 1 pourra faire gagner à sa communauté un Mac Pro. Donc, ça, c'est le PC portable, enfin, le Mac portable, ok. Voilà. C'est l'Airbook, c'est ça? C'est ça? On dit, ça s'appelle comme ça, non? C'est l'Airbook Pro? C'est ça? Je dis pas de bêtises? MacBook. Ah ouais, le MacBook Pro. Voilà. Voilà. Le deuxième fera gagner à sa communauté une console next-gen, donc soit une PS5, soit la Switch 2. Voilà. Et le troisième fera gagner à sa communauté encore une paire d'AirPods. C'est ça? AirPods. Voilà. Donc ça, c'est deux. Voilà. Voilà. Toc. Donc ça c'est demain 20h. Et puis au-delà de ça, surtout, on va passer un super moment parce que le jeu il est top, les questions sont top. Là je bosse dessus cet après-midi et ce soir. Et voilà, et j'espère que la prod elle est top. J'ai pensé 10 milliards dans ce truc. Vous voyez le budget du GP Explorer? Bah c'est plus là. C'est plus. Non, en vrai ça va être une vraie bonne soirée. Voilà. Donc mardi 20h. Sur Twitch. Donc les gens de TikTok, faut revenir sur Twitch. Qu'est-ce qu'ils présentent? Bah c'est moi. Bah c'est moi. Bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que voilà. Donc là, on a fait une grosse page sur le cornu. Pour ceux qui vont nous rejoindre là maintenant ou dans la prochaine heure, eh bien, vous pourrez leur dire, bah, on en a parlé. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui vont nous rejoindre là maintenant, je vais vous quitter à 12h30, et qui vont dire, ah, mais est-ce que vous savez, pour le cornu, il a démissionné, est-ce que vous pouvez en parler et tout. Alors vous leur dites, s'il vous plaît, vous leur dites, on en a parlé, c'est dans le sommaire, regardez. Ok, voilà. Là, on va parler de Gaza maintenant. Hop. Non, je vous mets. Hop. On va dire le monde. Voilà. Et là, on part sur Gaza. À 1h59. On a passé presque 2h sur le cornu en vrai. Ouais, on va mettre 2h même. Hein. Ouais, 1h59, soyons précis. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent en replay. Voilà. Ah, remarque, on peut faire ça, ouais. Voilà. Hop, et je vous mets la même chose sur TikTok. Comme ça, vous savez où on en est. Et ceux qui vont nous rejoindre, vous savez surtout que ben, eux, ils peuvent aller écouter sur YouTube, sur Twitch ou en podcast audio tout ce qu'on a fait sur le cornu ce matin, en fait. Voilà, comme ça, c'est pas perdu. Allez, parlons un petit peu de Gaza. Voilà. On y va ? Alors pour ceux qui, j'en vois quelqu'un dans le chat, oh Gaza on s'en, je vois des Gaza on s'en tape, oh Gaza encore, bah ouais. Il y a juste des gens à Gaza, des hommes, des femmes et des enfants, des civils qui se prennent des bombes sur la gueule, voilà. Je trouve que ça mérite notre intérêt, voilà, et que d'espérer un cessez-le-feu dans cette région, d'espérer un jour la paix dans cette région, bah c'est une question essentielle. Donc ceux qui s'en foutent, je me fous de votre avis, littéralement. Hein. Si Gaza vous emmerde, n'hésitez pas à aller faire autre chose. Donc j'en parle ce matin à nouveau. L'accord sous condition du Hamas au plan Trump, je rappelle les épisodes précédents, le président américain Donald Trump a proposé un plan, alors de paix, certains disent que ce n'est pas un plan de paix, il manque d'ambition, voilà. Un plan visant en tout cas à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à la libération des otages israélien par le Hamas et une ébauche de construction de ce qui pourrait être demain un retour de la paix dans la région. Voilà. Donc c'est à la fois insuffisant et en même temps un des rares espoirs de paix qu'on a eu depuis des mois dans cette région. Voilà. Comme le dit Onyx, c'est mieux que ça. C'est mieux que rien. Voilà. Alors, le Hamas, en fin de semaine dernière, le mouvement islamiste palestinien, a donné son accord sous condition. C'est ce que rappelle Le Monde en sa une. Vendredi, le mouvement islamiste palestinien s'est dit prêt à négocier en vue de la libération des otages et de la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Le Hamas n'a toutefois pas évoqué son désarmement, qui est l'une... Merci beaucoup, Le Vince, pour ton message. L'une des conditions de ce plan. Hein. Bah, il y a des travaux dans la cour, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit pour vous. Voilà. On s'en fout de Gaza. Foxy, je le répète, je répète, ton avis, je m'en fous aussi. Tu vois, un partout, va faire autre chose. Voilà. Va jouer dans la cour. Le Hamas n'a toutefois pas évoqué son désarmement, l'un des 20 points du plan américain, et réclame le retrait complet de l'armée israélienne. Voilà, donc c'est un oui, mais sous condition. Malgré ses réserves, le président américain a réagi favorablement et demandé à Israël d'immédiatement arrêter le bombardement de Gaza. Voilà. Quant à l'armée israélienne, elle a annoncé samedi accélérer les préparatifs en vue de la mise en œuvre de la première phase du plan pour la libération des otages. Voilà, donc je vous donne les dernières informations. Là-dessus. Trump salue le 8 mai du Hamas. Voilà. Le mouvement islamiste se dit prêt à négocier le plan du président américain pour Gaza, mais à ses conditions. Donc c'est l'article du Monde. On va essayer... je vais essayer de vous donner les informations les plus importantes. Voilà, vous voyez qu'on a pris beaucoup de temps sur le cornu ce matin, donc on a aussi plein d'autres dossiers. Il nous reste une heure, on va essayer d'aller à l'essentiel. déjà les mots de Trump. C'est un grand jour, on verra comment ça tourne. Par cette formule étrange, Donald Trump ne pouvait mieux résumer sa réaction à ce jour spécial, sans doute sans précédent. Voilà. Alors que quelques heures plus tôt, le Hamas avait publié un communiqué, hein, plein de sous-entendus et d'ellipses, mais qui n'avait qu'un but, donner satisfaction au président américain en acceptant ostensiblement, mais de façon incomplète, le plan de paix qu'il a présenté. Voilà. Sachant que, pour que vous ayez des éléments de contexte, Netanyahou, le premier ministre israélien allié à l'extrême droite, avait déjà prévenu, si le Hamas repousse ce plan pour Gaza, eh bien, ça me donnera une raison de plus pour poursuivre mes frappes contre Gaza, visant officiellement l'éradication du Hamas, et officieusement à rendre les conditions de vie telles pour les Palestiniens que les Palestiniens fuient Gaza, empêchant un jour la création d'un État palestinien dans la région. Donc, Netanyahou avait prévenu, si le Hamas refuse ce plan, let's go. On retourne taper très très fort, quoi. Donc le Hamas, a priori, est accepté. Voilà. Le mouvement islamiste se dit prêt à relâcher les 47 otages, vivants et morts, puisqu'on sait qu'une partie de ces otages sont morts, mais ne mentionne pas son propre désarmement. Donc le président américain dit c'est déjà un move, c'est déjà quelque chose, quoi. Il a fallu 4 jours au Hamas pour répondre à ce plan de paix. En fin de semaine dernière, on se demandait tous qu'allait répondre le Hamas. Vous avez la réponse. En devançant le nouvel ultimatum de 48 heures que Trump lui avait imposé vendredi après-midi. En cas de refus, avait déclaré Trump, ce serait l'enfer pour le Hamas, puisque Trump avait dit, après la prise de position de Netanyahou, je suis d'accord, si le Hamas refuse, vous ferez ce que vous voulez avec le Hamas. Quoi. L'enfer donc. Donc cet article développe un petit peu cette prise de position du Hamas. Voilà, mais ouais, qui ne valide pas tous les points de ce plan Trump, quoi. Parce que dans le plan Trump, il y a notamment le fait que le Hamas doit être désarmé et aussi que le Hamas ne peut plus jouer aucun rôle dans la future autorité qui dirigera les Palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Je vais très vite, hein, j'ai l'article vite fait. Voilà. Bon, si vous voulez connaître exactement ce que le Hamas a accepté ou pas, vous l'avez dans cette partie du Monde. Je vous ai donné l'essentiel. La Croix en parle aussi. J'ai plusieurs articles sur le sujet ce matin, c'est pour ça que je vais vite. Le coup de poker. Il nous donne une autre info, parce que l'édition du Monde que je viens de lire, c'est l'édition du week-end. Donc la prochaine édition sera publiée en début d'après-midi. La Croix a des infos un peu plus récentes, et La Croix nous explique que Israël et le Hamas entament aujourd'hui des discussions indirectes. Le président américain les pousse de tout son poids à conclure un accord rapide. Voilà. On aime ou on n'aime pas Trump. Force est de constater que celui qui est à l'origine de l'initiative qui fait que on n'a peut-être jamais été aussi près d'un cessez-le-feu à Gaza, c'est le président Trump. Voilà. Là, ici, c'est le début de l'article de La Croix. Qui cite le président Trump, aller vite, très vite, pour mettre fin à 3000 ans de catastrophe et arriver à une paix éternelle. C'est la mission dont Trump se sent investi pour obtenir la libération des otages israéliens et enrayer la guerre dans la bande de Gaza. Depuis la présentation de son plan en 20 points le 29 septembre, le président américain exerce une pression totale pour y parvenir. Pression menaçante sur le Hamas. Voilà. Pression plus subtile, mais réelle, nous explique La Croix, sur Netanyahou. Voilà. Il y a un média américain qui se fait l'écho d'un appel tendu que Trump aurait passé à Netanyahou. Il faut savoir que les États-Unis, historiquement, est un grand allié d'Israël. Trump qui aurait appelé Netanyahou en lui disant « Je ne sais pas pourquoi tu es toujours aussi négatif. C'est une victoire, prends-la. » Voilà. En Netanyahou, le problème, c'est que Netanyahou, il est allié avec l'extrême droite israélienne, dont les plans ne sont pas du tout ceux-ci, hein. D'une paix dans la région, de la création d'un État palestinien, d'une multiplication des colonies juives en Cisjordanie, d'un départ des Gazaouis de Gaza et avec Israël qui s'installerait de plus en plus dans ces deux zones. Pour réaliser ce rêve de l'extrême droite israélienne dit du Grand Israël, voilà, et empêcher à jamais la création d'un État palestinien. Sauf que Netanyahou, s'il n'a plus le soutien de l'extrême droite israélienne, il dégage du gouvernement. Donc, ça c'est la première page de cet article, voici la deuxième. Et après je vous lirai l'Humanité sur le même sujet également. Donc, il y a des négociations indirectes qui commencent entre Israël et Hamas. Alors, indirect, ça veut dire quoi? Vous m'avez peut-être posé la question. Indirect, avec notamment via les émissaires des pays arabes et des États-Unis. Voilà, on a l'émissaire américain Steve Witkoff qui a été dépêché par Trump et le gendre de Trump, Jared Kushner, ex-envoyé pour le Moyen-Orient, qui est également sur place. Et ça, le résultat de ces négociations, on va les connaître dans les prochaines heures, les prochains jours. Voilà. Et puis on a beaucoup d'articles sur le sujet ce matin, c'est la une de l'Humanité. Hein. Merci Tic-Tic, merci pour le train de live que vous avez déclenché. Très bonne question d'Effecator. Le prix Nobel de la paix doit être annoncé ce vendredi, est-ce que ça joue pour Trump? Le président Trump, il en rêve depuis toujours, hein, c'est d'avoir un prix Nobel de la paix. Voilà. Il est évident que dans ces initiatives que le président américain prend pour la région ici, il y a sans doute ce rêve qu'il a exprimé, hein, qu'il ne cache pas, de recevoir un jour le prix Nobel de la paix. Ma position là-dessus, vous la connaissez. Je ne suis pas sûr que le président Trump soit le meilleur candidat pour un prix Nobel de la paix, mais franchement, s'il arrive à ramener la paix dans la région, qu'on lui le donne. L'Humanité titre ce matin, Gaza, l'urgence de stopper le massacre. Après le 8 mai du Hamas au plan Trump, des discussions doivent démarrer en Égypte pour un cessez-le-feu, le retour des derniers otages israéliens, mais Netanyahou semble prêt à tout pour saboter le fragile processus. Oui. On a un édito de Rosa Moussaoui dans l'UMA. Un édito, c'est un article où le journaliste donne son avis, mais qui permet aussi souvent de résumer des actualités assez complexes, qui est celui-ci. Huit clos, je vous en lis quelques lignes. La guerre d'anéantissement à laquelle se livrent les forces coloniales israéliennes dans la bande de Gaza se joue aussi sur le front de l'information. Depuis le 7 octobre 2023, l'accès à l'enclave est interdit à la presse étrangère. Bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. Ah, c'est un truc plutôt sur les médias. Donc, on n'est pas sur la situation géopolitique. Pardon, c'est très intéressant, mais pour le coup, c'est un truc dont on a beaucoup parlé déjà. C'est le fait surréaliste que les journalistes n'aient pas accès à la bande de Gaza, les journalistes internationaux, quoi. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas ce qui nous intéresse ce matin, j'en ai souvent parlé d'ailleurs, et notamment des frappes ciblées de l'armée israélienne contre les journalistes palestiniens dans la bande de Gaza, mais l'urgence ce matin, c'est de savoir s'il y a un cessez-le-feu qui va être imposé ou pas. Excusez-moi, je vais vite. Bon, là, l'article ne dit pas beaucoup plus de choses que ce que je vous disais à l'instant. Je vous lis, je réponds à quelques-unes de vos questions parce que là, je suis sur les articles et je ne vous lis pas beaucoup et je m'en excuse. Rien sur la flottille dans la presse. On a beaucoup parlé de la flottille pour Gaza la semaine dernière, carnet de pâle. Il n'y a pas de catégorie Twitch pour le stream. Fais voir. Ok. Bon, c'est pas très grave, mais merci de me l'informer. Je vous le corrige tout de suite. Ok, voilà. Je vous lis. Il veut la paix mais ne reconnaît pas l'État palestinien. Chat, je suis d'accord, c'est l'une des faiblesses de ce plan de Trump pour la région, c'est que le plan de Trump en 20 et quelques points reconnaît l'expression de l'aspiration du peuple palestinien à la création d'un État, mais ne dit pas que les États-Unis souhaitent cet État palestinien, hein, et la solution des deux États qui coexisteraient en paix, Israël et un État palestinien. Tu as tout à fait raison. Le jour où les États-Unis reconnaissent l'État palestinien et un game changer absolu pour la région, on n'en est pas là, tu as raison. C'est l'une des faiblesses de ce plan. Après, pour résumer l'état d'esprit de quelques éditorialistes, de gens qui analysent l'actualité sur le sujet ce matin, c'est ce plan n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister, quoi. Pardon, je vais être provocant pour vous faire comprendre le sujet. Il est où le plan de l'Union européenne pour amener la paix dans la région? Cherchez pas, il n'y en a pas un. Ouais, parce que là, les Européens, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils sont 27, il faut qu'ils se parlent. Il y a des pays européens qui sont pour des sanctions aujourd'hui contre l'économie israélienne pour pousser Israël à changer son comportement. Hein, la France est parmi ces pays. Il y a des pays européens qui y sont opposés, comme l'Allemagne par exemple. Donc voilà, le plan américain totalement imparfait et insuffisant, il a le mérite d'exister. Il est où le plan européen pour pousser Israël à accepter un cessez-le-feu? Il n'y en a pas. Il est où le plan des pays arabes de la région pour pousser Israël à accepter un cessez-le-feu, il n'y en a pas. Donc voilà. Donc, ce plan américain, il a pour lui déjà d'exister, quoi. Et pendant ce temps-là, les Palestiniens continuent de mourir. Donc je ne suis pas un grand soutien du président Trump, vous le savez. Je m'interroge beaucoup sur la manière dont il gouverne le pays. On en parle souvent, mais voilà, ce plan, il existe. Et le grand risque, c'est qu'il ne s'applique pas d'ailleurs, hein, c'est que Netanyahou et ou le Hamas fassent tout pour qu'il ne puisse pas s'appliquer. Voilà, donc je vous ai donné l'essentiel de l'actu. Je suis un petit peu lapidaire, un peu rapide sur le sujet ce matin. On a passé beaucoup de temps sur le cornu, mais évidemment, on y revient demain et après-demain et après-après-demain. Je vous rappelle que la matinée Étienne, ce rendez-vous que je propose depuis 5 ans sur Twitch, tous les matins entre 9h et midi, 9h30, midi 30, où on passe en revue l'actualité en lisant les journaux et en essayant de répondre à vos questions, quand je peux, parce que vous êtes très nombreux ce matin. Waouh, wow, j'avais pas vu à quel point vous étiez nombreux. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Eh bien, dans ce rendez-vous, on parle depuis quelques mois, tous les jours du Proche-Orient, quoi. Voilà, donc, on y revient demain. Ça, c'est un truc dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Voilà. Notamment interpellé par vous. Hein. Il y a 15 jours, vous avez été quelques-uns à me dire, mais tu parles pas de ce qui se passe à Madagascar. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles dans la presse. Et puis, il y a des articles qui ont commencé à arriver. Et puis, j'ai commencé à parler de Madagascar. Et puis, en fin de semaine dernière, les gens m'ont dit, enfin, la semaine d'avant, mais tu parles pas de ce qui se passe au Maroc où il commençait à se passer des choses. Et puis, des articles sont arrivés. Voilà, à 2h18, ouais, je vous mets ça tout de suite. Voilà. Et on a parlé de Madagascar, et on a parlé du Maroc. Voilà. Et puis à un moment, on s'est dit, mais c'est bizarre, tous ces pays, quand même, c'est des pays différents, Madagascar, le Maroc, l'Indonésie, le Népal, etc. Et il y a des mouvements de révolte qui viennent de la jeunesse. Est-ce qu'il n'y a pas des points communs entre ces mouvements dans des pays extrêmement différents? Et on a trouvé un article qui était un article en fin de semaine dernière sur France 24 qui était extrêmement intéressant, qui soulignait effectivement les points communs dans les mouvements de révolte de jeunesse dans ces pays pourtant extrêmement différents. C'était assez passionnant. Et bien justement, dans Libération, on a un dossier là-dessus, voilà, que je voulais un petit peu vous lire ce matin. Voilà, 2h18, donc c'est le TC pour ceux qui regarderont cette revue de presse en replay ou qui l'écouteront en podcast. Maroc, donc c'est la une de Libé, Népal, Pérou, Madagascar, Indonésie, on est d'accord que ce sont des pays assez différents, sur différents continents. La révolte Gen Z, donc la génération Z, le drapeau du manga One Piece en étendard, les réseaux sociaux pour se coordonner, notamment Discord. Les mobilisations de jeunes contre la corruption et les pouvoirs autoritaires prennent de l'ampleur dans de nombreux pays, c'est extrêmement intéressant, malgré la répression et plusieurs dizaines de morts. Est-ce qu'on a un édito pour résumer un peu ça ? Lorraine Provost, c'est pas mal. Lorraine Provost, elle écrit de très bons éditos dans Libé. Solidarité. Le soulèvement de la génération Z qui SM sur toute la planète ne s'arrêtera pas à notre porte. Leurs aînés le découvrent à peine après 6 soirées de manifestation du mouvement Gen Z 212, marqué par des violences meurtrières au Maroc. L'élan des jeunes est déjà présent en France. Ah, c'est marrant. Elle va plus loin, Lorraine Provost. Elle se demande s'il ne peut pas y avoir, si je comprends bien, un mouvement de ce type en France. 212, oui. Alors, Parana, je suis comme toi, je me posais la question. Et en fait, dans le chat, on m'a répondu la semaine dernière, mais 212, Samuel, c'est l'indicatif téléphonique international pour le Maroc. D'où ce Gen Z 212, en fait. Voilà. Et donc, Lorraine Provost, elle se demande si je comprends bien, ça pourrait se produire en France. Même si un compte Gen Z 33, c'est l'indicatif téléphonique de la France, n'a pas été officiellement créé, le mouvement se diffuse déjà. Sur les smartphones, les vidéos du Parlement de Katmandou en feu, de barricades à Antananarivo, de manifs à Agadir, les images apparaissent naturellement sur les réseaux sociaux. Magie ou sorcellerie des bulles algorithmiques et de la viralité de ces contenus pensés par leurs homologues, experts en montage vidéo, efficaces et dopés à l'IA. Cette série de soulèvements des ultra-connectés a débuté il y a 3 ans, déjà, dans plusieurs pays du Sud, Sri Lanka, Bangladesh, ce qu'on a d'abord perçu comme un printemps asiatique, il y a 3 ans, vous voyez, ça ne date pas d'hier, a continué sa route vers Madagascar, vers le Pérou, vers le Kenya. À chaque fois, les situations sont différentes, les systèmes politiques disparates. Il n'empêche, parce qu'elles parlent le même langage, partagent la même culture globale, il n'y a qu'à voir leur étendard drapeau pirate sorti du manga mondialement connu One Piece. Excusez-moi, je fais le ménage. Quelqu'un qui spamme dans le chat, c'est pas très respectueux pour les autres. Et ressent les mêmes inégalités, quel qu'en soit le degré, la génération Z entre en solidarité numérique. Elle vibre ensemble face à un savant mélange de divertissement et de politique. Elle ne cherche pas nécessairement un changement de régime. Les modos, je vous laisse gérer le petit comique là dans le chat qui spam du côté de TikTok en se vantant qu'il a 10 comptes et donc à chaque fois qu'on va le bloquer, il va relancer ses âneries avec son même compte. Je vous laisse. Oui, mais il va revenir. Je vous laisse le gérer, je veux pas que ça foutre. Hein. Voilà. Elle ne cherche pas nécessairement un changement de régime. Au Maroc, la mobilisation a débuté en faveur de changements sociaux, comme un meilleur financement de la santé et de l'éducation. Mais la classe politique est toujours attrapée. Vendredi, le collectif sans chef ni parti connu a écrit au roi pour demander la chute du gouvernement. En France, où le taux de chômage des jeunes dépasse les 18%, où le poids de la dette est écrasant, où la vie politique ressemble à un jour sans fin, confère hein, ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le cornu, les premiers drapeaux pirates ont été brandis dans les manifestations de la rentrée. On ne sait pas encore quoi, mais quelque chose a débuté. Alors ça, c'est intéressant. Libération par la plume de Lorraine Provost se demande si ce mouvement qu'on a vu naître dans ces pays, Maroc, Népal, Pérou, Madagascar, Indonésie notamment, ne pourrait pas prendre une forme également, une autre forme en France. À voir. Là, vous avez un article dans Libération que je vous invite à lire. Hein. Je vais vous en lire quelques extraits. Pages 2 et 3 dans Libé. Souvent, une étincelle suffit pour lancer la contestation. Une pénurie d'eau ou d'électricité, un privilège accordé à un puissant. Le blocage des réseaux sociaux, les soins hospitaliers indignes, c'est notamment au Maroc, dans des maternités. Hein, c'est l'étincelle qui a tout allumé au Maroc il y a maintenant une dizaine de jours. Avec la mort de jeunes mamans. Hein. Des inondations destructrices, voire des décès de patients ou de militants. Dans la rue et en ligne, du Maroc au Népal, du Pérou au Bangladesh, en passant par le Sri Lanka, le Kenya au Madagascar, une mobilisation tous azimuts part à l'assaut de pouvoirs corrompus et vieillissants quand elle ne participe pas à la chute de régime et l'organisation de nouvelles élections. Elle est portée par la génération Z ou Gen Z, ces jeunes nés entre, pour donner une définition sociologique, entre la fin des années 90 et le début des années 2010 en plein boom numérique. Ces zoomers, il y a les boomers et puis il y a les zoomers, représenterait un tiers de la population mondiale. Originaires du Sud global, ils ont grandi avec la menace du réchauffement climatique, des pandémies, des discriminations raciales, de genre, sur fond d'une plus grande affirmation des pouvoirs illibéraux et autoritaires. Il est évident que les revendications, le moment, la durée, les conséquences, les luttes diffèrent, selon ces pays bien sûr, hein, d'un pays, d'un continent à l'autre, et qu'elles ne sont pas exclusivement défendues par la Gen Z. Hein, parfois, il y a aussi des gens plus âgés ou plus jeunes qui peuvent se retrouver dans ces mouvements. Il n'empêche, cette vague de soulèvement n'est pas que l'addition de luttes éparses sans lien entre elles. Elle révèle, c'est le point commun entre ces mouvements, un schéma interconnecté avec une résonance transnationale. C'est-à-dire que les jeunesses, plusieurs jeunesses du monde entier suivent tout ça avec beaucoup d'intérêt. Affranchis des frontières du nationalisme et des clivages culturels. C'est la magie des réseaux sociaux. Parfois, les réseaux peuvent être utilisés n'importe comment et provoquer beaucoup de dégâts, et parfois peuvent aussi être un instrument de mobilisation, de révolte, de partage, de communication. Les réseaux, ce n'est qu'un outil. Après, à vous d'en faire quelque chose de négatif ou de positif. Le drapeau pirate de l'équipage de Luffy du manga One Piece symbolise cette contestation sans frontières, c'est intéressant. En Indonésie, en Madagascar, aux Philippines et même en France lors des manifs des 10 et 18 septembre, il flottait au vent dans les cortèges syndicaux et militants. Autre signe d'appartenance générationnelle, le facteur smartphone, crucial dans cette mobilisation, qui associe parfois dans un hashtag le code téléphonique d'un pays avec l'expression Gen Z 212 pour le Maroc, Gen Z peut-être 213 pour l'Algérie, demain peut-être Gen Z 33 pour la France. Si quelqu'un veut lancer un Gen Z 33 pour la France. Si les millénials, donc c'est ceux d'avant, hein, nés entre le début des années 80 et le milieu des années 90 se sont réveillés avec Internet, les Zoomers, génération Z, sont la première génération réellement native du numérique. Avec des téléphones hyper présents dans leur quotidien, ultra connectés, pensés pour des réseaux sociaux, applis et plateformes plus récents que les dinosaures Facebook ou X, ainsi Insta, TikTok, Discord, Snapchat, BeReal permettent une plus grande viralité qui décuple le message et les revendications. Le tout en maniant l'humour, en utilisant l'IA, en reprenant parfois des chansons. Ce qui change, c'est la manière de s'adresser à la société. Avec une vidéo de 30 secondes, il touche plus de monde qu'un communiqué officiel en arabe classique. Qu'est-ce que tu racontes ? Va te coucher, papy ! Merci Léo pour cette participation extrêmement intéressante à ce chat. Comme j'ai espoir en l'humanité, je ne te bloque pas. Je t'invite par contre à aller faire une sieste et à revenir demain. Salut mon chouchou. Au-delà des outils de la contestation et de son apparence, il y a un trait commun à ces soulèvements, un mécontentement généralisé face aux inégalités sociales et au manque d'opportunités. Au Maroc, mais aussi dans d'autres pays dits du sud global, Madagascar, Népal, qui font face à de tels mouvements, il y a l'héritage historique dans lequel s'inscrit cette jeunesse. Leurs grands-parents ont connu les luttes anticoloniales, portaient des idéaux de liberté, de justice et de dignité. La génération Z, elle, est née dans un État-nation déjà consolidé, avec des institutions, mais elle constate que la promesse n'a pas toujours été tenu. Quoi. Pour les zoomers marocains, par exemple, il est incompatible qu'on construise des stades flambant neufs, puisqu'il y a la prochaine CAN, Coupe d'Afrique des Nations, et puis le Mondial de football aussi, alors que des femmes meurent en couche, faute de soins adéquats. C'est ce que je vous disais, des jeunes mamans, des jeunes femmes qui sont mortes dans la maternité de... Ah, j'ai plus la ville. Est-ce que c'était Agadir ? Je ne sais plus. Et qui a été l'étincelle qui a déclenché... Le mouvement actuel, c'est Agadir, c'était Agadir. Au Maroc. Merci à vous. Voilà. Tous fustigent une société à deux vitesses, des écarts de richesse croissants. En Indonésie, l'octroi aux députés d'une allocation de logement 10 fois supérieure au salaire minimum à Jakarta a provoqué des pillages, des manifestations dans la capitale. Au Népal, des vidéos sur TikTok révélant la vie luxueuse des enfants des responsables politiques ont alimenté la colère des jeunes, déjà chauffés à blanc par le blocage de 26 autres plateformes par un régime vieillissant enkysté à la tête de l'État. À Madagascar, c'est un ras-le-bol contre les coupures d'eau et d'électricité à répétition qu'expriment les Malgaches, sur fond de colère contre la corruption endémique du pays. Au Timor-Oriental, 2000 personnes sont descendues dans la rue pour protester contre le projet du gouvernement de fournir gratuitement des SUV Toyota à 65 parlementaires. C'est intéressant. Le Maroc a deux vitesses, effectivement. Abdema qui a été dénoncé par le roi Mohamed VI lui-même. Exactement. Ouais. Mais alors, en fait, les discours, c'est bien, mais ce que les jeunes marocains attendent, c'est qu'au-delà des discours, y ait également des actes. Il est vraiment passionnant ce dossier, hein. Je vous invite à lire dans Libé. Merci Nuk Nuk, merci Delirium, merci Bou, merci Canard Minable, merci Tic Tic, merci Gaspard. Alors, certains dans le chat se posent peut-être la question de que provoquent ces mouvements? Est-ce que c'est, hein, est-ce que ça a des conséquences concrètes sur la vie des habitants du pays concerné? Eh bien, parfois oui. Au Sri Lanka, par exemple, elle a chassé du pouvoir le clan Rajapaksa pour faire élire le président Anura Kumara Dissanayake, qui a fait campagne sur le thème de la politique propre et promis de lutter contre la corruption de l'élite et de réduire les taxes pesant sur la population. Même mobilisation au Bangladesh en 2024, où l'autoritaire premier ministre Sheikh Hasina a dû fuir ce jeune pays, aujourd'hui géré par intérim par le prix Nobel de la paix Mohamed Yunus, qui ira aux urnes en février. Donc parfois, il y a des conséquences politiques. Voilà. Dans ces cas-là, la mobilisation semble en partie avoir porté ses fruits, mais s'interroge Libération dans cet article, quelle sera la pérennité de ces mouvements au Maroc, hein, à Madagascar, en Indonésie, voire en Algérie, après l'échec de son Irak en 2019-2021. Intéressant. Voilà. Et vous avez, on n'aura pas le temps de lire tous les papiers ce matin, vous avez un coup de projecteur dans Libération sur ce qui s'est passé ces derniers jours au Maroc. Voilà, avec notamment vendredi une interpellation du roi Mohamed VI par le collectif Gen Z 212 pour réclamer notamment la dissolution du gouvernement. Voilà. Vous avez un coup de projecteur aussi sur l'Indonésie. Voilà, avec ce chapeau ici, après une vague de protestations il y a un mois, la colère perdure chez les étudiants indonésiens. Malgré la répression, les jeunes sont prêts à redescendre, à descendre à nouveau dans la rue, dans les rues de Jakarta. Voilà. Je vous lis un petit peu, pardon, c'est un énorme dossier, mais on a passé tellement de temps ce matin sur le cornu que je suis un petit peu plus rapide sur ces sujets. Des amis de Twitch me disent que ça lag beaucoup du côté de Twitch ce matin. C'est Twitch qui a du mal à se remettre du GP Explorer, c'est ça? Bon, ça vous empêche pas d'être super nombreux ce matin, je vous en remercie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de devenir dirigeant de la France après une révolution Gen Z, Sam? Me demande Skermist en disant MDR. Enlève le MDR, c'est prévu. Hein. C'est prévu. Ici, nous avons un projet, je dis nous parce que c'est un projet que nous avons ensemble. Voilà, c'est un projet secret, donc n'en parlez pas trop. Voilà, 2027, nous préparons une candidature à la présidentielle. Voilà. Avec un programme que nous co-construirons ici en live, en réfléchissant ensemble aux réformes dont pourra avoir besoin notre pays. Voilà, on ira chercher les 500 signatures, on se présentera, on passera le premier tour, on sera au second, on gagnera et on gouvernera ensuite de la même manière en consultant les Français le plus souvent possible, notamment par référendum. Point d'exclamation 2027 dans le chat Twitch et vous avez toutes les infos sur ce projet. Si seulement c'était vrai, tu verras. Si c'est en 2025 ou 2026, aïe, je serais pris de vitesse un petit peu là. C'est vrai que voilà, moi, le projet il est pour 2027. Si c'est pour tout de suite, là, il faudrait... Bon, je sais pas. Bon, je voulais faire Danse avec les Stars. Peut-être que j'annulerai peut-être Danse avec les Stars. Pour me concentrer sur 2025 ou 26, quoi. On verra. Je pense que les gens qui tombent sur cette chaîne se disent « Mais le mec, il a pété un câble. Hein. » Samuel Etienne, on ne comprend plus rien de ce qu'il dit. Hein. « Tiens, c'est mignon parce que du coup, dans le chat, j'allais quoi tu veux vraiment présenter la présidentielle, et juste en dessous, j'ai quoi tu veux vraiment faire d'Als. Je kiffe. Je vous aime. Donc, on aura l'occasion d'en reparler de ce projet. Okay. 12h08, j'accélère un petit peu. On va au Japon. Voilà, un pays dont on ne parle pas beaucoup dans les médias français d'ailleurs. Au-delà de oui, les mangas, oui, l'électronique, oui, c'est formidable le Japon, le tourisme. Mais la société japonaise, de la vie politique japonaise, il n'y a pas tant d'articles que ça régulièrement dans les médias français. C'est bien dommage, c'est un pays qui est assez fascinant. Et du coup, je pense que c'est un pays sur lequel on a beaucoup d'idées reçues et pas beaucoup d'infos finalement. Voilà. Et on va parler de nationalisme au Japon et d'un rapport un peu particulier à l'immigration notamment, voilà, avec notamment une nouvelle première ministre. C'est la première fois qu'une femme devient chef de gouvernement au Japon, mais une femme ultra-nationaliste. On est à 12h08, je dis pas de bêtises, ouais, exactement. Deux articles là-dessus. Je vous modifie le sommaire et on y va. Hop, voilà. Je vous modifie les deux côtés. Let's go. Alors, c'est quoi cette histoire? Déjà, l'Humanité ce matin qui dit... Donc, ce nouveau Premier ministre... Pourquoi 12h08? Je suis débile, moi. C'est 2h34, ouais, excusez-moi. Faut pas... C'est pas l'heure que je dois mettre. Excuse-moi. La fatigue. Ah, il y avait Simplay hier soir. Oh, on n'a pas, oh, pas parlé du Simplay d'hier soir. Mais le Simplay d'hier soir avec Cyprien, vous l'avez en replay sur Twitch et sur YouTube à partir de cet après-midi. Le Simplay d'hier soir avec Cyprien sur Balatro, une dinguerie. Vous l'avez en replay sur Twitch, gratuitement, sur YouTube, à partir de cet après-midi. On s'est régalé. Bon, je reviens au Japon. Donc c'est elle, Sanae Takeshi. Première femme... chef de gouvernement au Japon. Le choix du pire pour le Japon estime l'humanité. Samedi, le Parti libéral-démocrate a élu une ultra-nationaliste pour remplacer Shigeru Ishiba. Elle est la première femme à accéder au poste de Premier ministre. Donc une femme accède au pouvoir au Japon, déjà, je trouve ça intéressant. Après, elle a un parcours qui est... Ok, on va se pencher là-dessus. Discréditée, impuissante, la droite japonaise s'enfonce toujours plus profond. Depuis les scandales de fraude financière électorale en 2024, alors des scandales politiques et financiers dans la classe politique japonaise, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Le Parti libéral-démocrate au pouvoir a vu tomber deux premiers ministres. Vous voyez, les crises politiques, ça n'est pas que chez nous. Hein. Fumio Kishida, l'an dernier, Shigeru Ishiba, qui a démissionné le 7 septembre. Ça vous rappelle rien ? Pour le remplacer et donc nommer en interne le prochain Premier ministre du Japon, les cadres du parti ont fait le choix de la fuite en avant en élisant samedi Sanae Takeshi, voilà, qui attend maintenant le vote de confiance du Parlement. Donc elle est mise en avant par le parti, mais elle n'est pas encore officiellement Premier ministre. Hein. Hein. Donc elle deviendrait, dans ce cas, en cas de validation par le Parlement, la première femme Première ministre de l'archipel. Mais le profil de la députée inquiète, issue de... La faction du faucon Shinzo Abe, elle est partisane du Japon d'abord. D'un nationalisme agressif, cette farouche opposante à l'immigration n'hésite pas à verser dans la xénophobie. Quatre partis d'opposition ont d'ailleurs lancé une pétition contre les fausses rumeurs et les discriminations à l'encontre des étrangers et des Japonais d'origine étrangère, signe d'une radicalisation de la politique. La réactionnaire qui a pour source d'inspiration l'ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher, qui était une femme assez conservatrice, notamment sur un plan économique et social, est une capitaliste échevelée qui voudrait une libéralisation totale du travail. Bon, après, évidemment, ça ne plaît pas à l'Humanité, qui est un journal, je vous le rappelle, qui est un journal français communiste. Elle cumule l'homophobie, elle s'oppose aux relations entre personnes du même sexe, l'antiféminisme, elle désire cantonner les femmes japonaises au rôle d'épouse et de mère, mais pas en dehors du mariage. Et le fascisme, elle a fait pression à plusieurs reprises sur les médias et a fait la promotion de groupuscules néo-nazis japonais. Elle est affiliée au Nippon Kaigi, organisation ultranationaliste nostalgique du Japon impérial, et de ses millions de morts et de torturés en Chine, en Corée, à Taïwan et dans toute l'Asie. Elle rend régulièrement hommage aux divinités du sanctuaire Yasukuni à Tokyo, qui honorent les criminels de guerre de la Seconde Guerre mondiale, dont les actes auraient été exagérés, dit-elle. Pour ne rien gâcher, Takeshi est enfin favorable à la remilitarisation du Japon, interdite par sa constitution pacifique post-Seconde Guerre mondiale, enclenchée sur son modèle Shinzo Abe et accélérée par les derniers gouvernements. Le PLD, donc c'est le parti au pouvoir, doit... quelqu'un me dit... Oh, très bonne question, Nuna. Mais comment est-elle arrivée à devenir première ministre bientôt avec son rôle d'épouse et de mère? Bien joué, bien joué. Le PLD vient donc d'imposer aux Japonais la solution du pire, une candidate extrémiste, pour contenir les percées récentes des mouvements d'extrême droite, tels que le Sanseto aux dernières élections. C'est pourtant la droite au pouvoir qui a contribué à l'instabilité politique du pays, estime l'humanité, à une inflation qui plonge de nombreuses familles dans la détresse, et y a installé une ambiance anxieuse et xénophobe. Certains me diront « oui ». Mais c'est le regard d'un journal de gauche, l'Humanité, sur le sujet. Bon, prenons un journal qui n'est pas vraiment un journal de gauche, qui est un journal libéral, Les Échos, et qui constate la même chose. Hein. Au Japon, une femme nationaliste, radicale, va prendre le pouvoir. Voilà. Donc, je vous laisse lire l'article. Donc, c'est cette dame-là, ici. Voilà, des Échos. Et du coup, Les Échos vont un peu plus loin et proposent à leurs lecteurs un encadré, un petit coup de projecteur, sur la schizophrénie du Japon. Le Japon, c'est pas que le pays des mangas, des animés et de la tech. C'est aussi un pays qui a un rapport très particulier avec l'étranger, avec les étrangers et avec l'immigration. Merci Nuke Nuke, merci Delirium, merci Bou. Sanae Takeshi va devoir clarifier la politique migratoire du pays qui souffre de la chute des naissances. Les Japonais font pas d'enfants, quoi. Bien moins que nous. On la fait de moins en moins, mais ils en font beaucoup moins. Donc c'est une population extrêmement vieillissante aussi. Sur les réseaux sociaux, les militants se passent le mot. Ils vont organiser le 26 octobre prochain, donc c'est dans 20 jours, dans plusieurs villes du pays, de grands défilés simultanés contre l'immigration. Il y a des grandes manifestations contre l'immigration qui se préparent au Japon. Japonais, unissez-vous, ordonne le poster, illustré d'un large « no immigration ». Bon, c'est déjà clair. Au-dessus d'une image d'une ruelle sordide où se tiennent des femmes voilées et des hommes à la pommade. Bon, comme ça, ça mérite d'être clair. Le mouvement capitaliste sur les manifestations ces dernières semaines de petits groupes de citoyens dans plusieurs villes du pays qui avaient cru comprendre à tort que le gouvernement japonais préparait l'arrivée massive d'immigrés africains dans leur municipalité. Il s'agissait en fait d'un simple programme d'échange culturel que l'Agence japonaise de coopération internationale en panique s'est empressée d'annuler. Ça rigole pas, le Japon. Malgré cette victoire symbolique, les militants anti-immigration veulent maintenir la pression sur la prochaine chef de gouvernement, porteuse d'une ligne très conservatrice, Sanae Takeshi, qu'on a présentée tout à l'heure, sera très probablement nommée première ministre à la mi-octobre et devra répondre à la grande schizophrénie du Japon face à l'immigration. Voilà. Il y a un professeur japonais à l'université du Kansai qui dit « Sans travailleurs immigrés, la société japonaise n'est plus viable ». Voilà. Mais il ajoute, ce sujet reste tabou dans le pays. Souffrant d'un taux de fécondité en recul constant depuis qu'il est tombé sous le seuil de renouvellement en 2,1 en 74, le Japon ne fait plus que 680 000 bébés par an. Avec le vieillissement de ses baby-boomers, il enregistre plus d'un million 1,6 million de décès chaque année. Chaque année, vous avez 1 600 000 personnes qui meurent chaque année au Japon, et vous avez que 600 000 et quelques bébés. Donc, bon, le solde, vous l'avez en tête, littéralement, c'est 1 million de Japonais en moins chaque année. Des centaines de milliers de travailleurs quittent le marché de l'emploi et il n'y a plus assez de jeunes Japonais pour les remplacer. Les pénuries de main-d'œuvre frappent tous les secteurs au Japon. Dans la construction, un employé sur 27 est désormais étranger. Il y a 10 ans, c'était 1 sur 246. Dans les métiers de la santé et du soin, cette dépendance a été multipliée par 8. Beaucoup ne peuvent plus tourner sans cette main-d'œuvre venue pour l'essentiel de Chine, d'Asie du Sud-Est ou du Népal. Quelqu'un me dire, mais alors pourquoi vouloir maintenir la population? Ben, je sais pas. Pour trouver des gens pour s'occuper des vieux, par exemple, comme vient de dire l'article. Voilà. Et accessoirement, des gens pour construire des maisons aussi. Voilà. Parce que pour c'est compliqué de demander aux retraités de fabriquer des immeubles. Enfin, c'est pas trop le principe. Et puis comme les retraités sont extrêmes nombreux au Japon, il faut trouver des gens pour s'en occuper, notamment dans le domaine de la santé. Puis accessoirement, il faut faire tourner l'économie. Quand tu as l'essentiel d'une population qui est à la retraite avec une retraite à payer, si tu n'as pas des actifs pour payer les retraites, c'est compliqué. Bon, quelques éléments, je pense que tu peux en trouver d'autres comme ça. Ou alors tu les laisses crever les vieux, hein. C'est peut-être la proposition que tu voulais nous faire, quoi. Donc chaque année, le Japon voit désormais son stock de travailleurs étrangers augmenter de 350 000 personnes pour une population étrangère atteignant aujourd'hui 3,77 millions d'individus, soit 3% du total des habitants de l'archipel. On a 3% des habitants du Japon actuellement qui sont étrangers. À ce rythme de progression, on arrivera à 10% dans 20 ans. La dynamique est inarrêtable, c'est en fait le constat qu'on fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un pays qui a été totalement fermé à l'immigration pendant des décennies et qui en fait s'ouvre à cette immigration pour des raisons économiques. Sauf que une partie des Japonais le vivent pas très bien, quoi. Face à cette perspective, notamment le fait que les entreprises veulent embaucher des étrangers parce que tout simplement ils trouvent personne à embaucher, Tokyo est tétanisé. Tokyo, c'est le gouvernement. Le gouvernement affirme toujours qu'il a seulement recours à des travailleurs de passage dotés de visas de courte durée. Voilà. Et les entreprises disent ça va pas être possible en fait. Longtemps isolé dans ces îles, l'État-nation japonaise s'est construit sur une forte homogénéité culturelle, linguistique, ethnique. Et sa population vit mal la présence croissante d'étrangers. Voilà. Profitant du mutisme du gouvernement et du PLD, les partis populistes s'engouffrent dans le débat. Le très xénophobe Sanseto a même emporté 14 sièges au Sénat en juillet dernier, poussant les prétendants à la direction du PLD, le parti qui est au pouvoir actuellement, et notamment Sanae Takeshi, donc peut-être la future première ministre, à durcir leur discours contre, je cite, les problèmes provoqués par les étrangers. Bon, ça, c'est dans Les Échos, page 7 aujourd'hui. Je vous lis un petit peu. Enfin, les commentaires pertinents, parce que quand on parle d'immigration, parfois, t'as des fous du bus qui débarquent. On va pas obligé de tout lire non plus. Ah, le comte de Monte Colsto a trouvé la solution. Ils vont faire une politique nataliste et robotique, tout simplement. L'immigration n'est pas la seule solution. Alors, dans l'histoire de l'humanité, décréter politiquement qu'un peuple va faire des enfants, ça ne marche pas. Et heureusement d'ailleurs. Voilà. On va oublier enfin, justement, on va pas oublier, évidemment, qu'il y a parfois il y a des pouvoirs politiques qui décident sur un mode dictatorial d'imposer ce que les gens doivent faire sur un plan familial, par exemple, de faire zéro enfant, un enfant ou plus d'enfants. Prenez l'exemple de la Chine, par exemple, qui longtemps a interdit aux couples de faire plus d'un enfant et après a essayé de faire l'inverse, puisqu'ils ont le même problème de vieillissement de la population, en disant: on vous a dit pendant des décennies qu'il fallait faire qu'un enfant. Non, 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 c'est gouré, n'en faites-en plus maintenant. Voilà. Avec tous les problèmes que ça pose, quoi. En France, un certain président Macron a dit qu'il fallait réarmer démographiquement la France. Évidemment, les Français ne l'ont pas écouté et on a un taux de fécondité en France qui continue de baisser. Et encore heureux d'ailleurs, puisque si les Français et les Françaises veulent avoir des enfants, c'est leur problème. C'est un choix personnel, c'est un choix familial. Tu peux avoir envie d'avoir des enfants, comme tu peux avoir ne pas avoir envie d'avoir des enfants, et c'est ton sujet, c'est ton problème. Ce n'est pas aux autres, ni à tes parents, ni à tes voisins, ni à la société, ni à l'État de te dire si tu dois avoir des enfants ou pas. Donc, celui qui vient de me dire, c'est bien simple, le gouvernement japonais n'a qu'à décider d'une politique nataliste, les Japonais vont faire des enfants, ça marche pas. Et c'est tant mieux. et laisser les femmes tranquilles. Exactement, Kitty. Sans le décréter, on peut l'inciter, effectivement, mais. Alors en France, la politique de soutien aux familles, elle est moins forte qu'elle n'a été, hein. Il y a eu des décisions qui ont plutôt dégradé le soutien aux familles ces dernières années, notamment sur un plan fiscal et d'accompagnement économique. On peut estimer que, effectivement, ça peut jouer, mais la plupart des études, notamment d'économistes sur le sujet, montrent que ça joue à la marge. Et si on fait peu d'enfants en France aujourd'hui, c'est pour de multiples raisons, et pas seulement pour des raisons de politique fiscale ou d'incitation et de soutien aux familles, mais pour d'autres raisons. Voilà. Avenir qui fait peur, âge du premier enfant qui arrive plus tard, et c'est plutôt une bonne chose, c'est parce qu'en fait les femmes travaillent et font les études supérieures bien plus que les générations précédentes, et donc ben, mécaniquement l'âge moyen du premier enfant arrive plus tard. Hein. Un désir d'enfant qui baisse également, un coût de l'immobilier surréaliste dans un pays comme la France aussi, donc un faisceau de raisons qui font que, en France comme dans la plupart des pays du monde d'ailleurs, le taux de fécondité baisse. Voilà. Donc, à la marge, une politique nataliste peut jouer, mais vraiment à la marge, quoi. Voilà. Bon, ça, c'est un sujet qu'on a eu à de multiples reprises sur cette chaîne pendant des heures. Donc, on va pas le réavoir ce matin parce qu'on va manquer de temps. Mais ceux qui imaginent qu'il est facile de relancer la natalité au Japon, c'est que vous avez, pardon, mais vous n'avez pas beaucoup bossé sur le sujet. Mais ça, pour le coup, c'est un vrai sujet. Ouais. Est-ce que je suis. Oh là là. C'est nul, je suis désolé. Les amis, j'ai un rendez-vous, j'ai un Teams à 12h30. Hein. J'avais largement le temps de ce matin de vous parler des sujets qui restaient, de ChatGPT qui s'installe dans nos vies, article dans Le Monde qui est passionnant, voilà. D'autant moins que, alors que moi, justement, j'utilise pas du tout, donc là, je me sens un peu vieux sur le coup. D'un album de BD Picsou, mais fait par des Français qui arrivent en France, qui a l'air d'une dinguerie. Voilà. Et de cette question, pourquoi les médias traditionnels ne parlent pas du GP Explorer? Pourquoi il y a si peu d'articles ce matin dans la presse sur le GP Explorer? Et globalement, si je ne suis pas sur Internet, mais on a passé beaucoup de temps sur le contenu, donc je m'en excuse, je n'aurai pas le temps. Dans 5 minutes, j'ai une réunion, je suis désolé. Donc, il y a un monde où je vous garde ces articles de côté. Hein. Finalement, attendez, on a parlé de l'essentiel. On a parlé de Le Cornu, hein, mais pendant 2 heures, du coup. On a parlé de Gaza, du plan pour Gaza. Enfin, c'est essentiel. On a parlé de la révolte de la Gen Z dans plein de pays du monde. On a parlé un peu du Japon à l'instant. Donc, ChatGPT dans nos vies, c'est plus GPT, c'est plus un truc de société. On peut lire demain, ce sera bien aussi. Picsou français, actualité un peu plus légère. Ça a l'air anecdotique, mais l'histoire est plutôt mignonne. Je pense que je peux vous en parler demain. Et le débat sur pourquoi les médias traditionnels ont parlé si peu du GP Explorer, bon, on pourra aussi en reparler demain en vrai. Voilà, donc je m'en excuse, pardon, mais priorité à l'actu, comme disent les chaînes info. On a passé 2 heures sur Le Cornu quand on a appris ce matin, peu après le début de cette revue de presse, que Le Cornu démissionnait. Alors cet après-midi, je ne peux pas vous faire de revue de presse. Clem me demande si je peux pas faire une revue de presse cet après-midi. Je peux pas, parce que là, il faut que je bosse sur mon gros stream de mardi soir. Le bingo! À 20h mardi soir. Donc je peux pas. Mais demain matin, revue de presse, ça c'est sûr, et je pense qu'on aura le temps de parler de ces sujets. Sauf que demain, bah, on parlera aussi de la suite de Le Cornu. Hein. Et donc on aura sûrement une grosse page Le Cornu demain. Parce que là, cette séquence poétique que nous vivons actuellement en France, elle est totalement folle. Elle est historique. Voilà. Donc voilà. Donc demain matin, on fait le point sur l'actualité, hein, de nouveau. Mais s'il se passe des folies cet après-midi, ou s'il se passe des folies ce soir, avec des annonces, avec une annonce du président Macron, par exemple, ben, je vous referai un live d'actu. Hein. C'est sûr, quoi. Quid du règle de question pour un champion? Je sais pas. Voilà. Là, je vous avoue que je sais pas. Depuis quelques semaines, On a testé, on a tenté le react de questions pour un champion, c'est-à-dire les deux épisodes du week-end, le lundi, ou le mardi ou le mercredi, à différents horaires, le soir, l'après-midi. Le rendez-vous est sympa, il y a une bonne ambiance, on rigole bien, mais j'avoue que le nombre de personnes sur ce live react question pour un champion est très inférieur au nombre que vous êtes sur tous mes autres rendez-vous sur ma chaîne, la revue de presse, le gaming, ça me plaît, etc. Donc un programme, c'est une rencontre entre une proposition et un public, et en fait vous n'êtes pas très nombreux sur ce react, donc je me dis que ce rendez-vous n'est pas forcément celui que vous attendez sur Twitch, quoi. Donc je suis en réflexion là-dessus. On kiffe le react, me dit Ovegam. Ouais, mais vous n'êtes pas assez nombreux à le kiffer. J'ai l'impression de vivre la 4ème République, mais en 5ème. Bah oui, le poupoule. C'est exactement ça, ouais. Bon, les amis, merci. Hein. Désolé. Hein. Là, je vous abandonne lâchement. Hein. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. C'était ouf. Je vous retrouve au plus tard demain matin. Cet après-midi ou ce soir, s'il y a des dingueries politiques qui se produisent. Et puis, en tout cas, s'il n'y a pas de dinguerie, je ne vous ferai pas de live ce soir, parce que je pense que ce soir, je vais bosser beaucoup sur le live de mardi soir, voilà, qui est un live très important pour moi et pour ma petite équipe. Voilà. Voilà. Hop, je vous rappelle, c'est ça, mardi soir, venez nombreux. On vous attend, ça va être un super live, le bingo, des super invités, un super jeu, des super mécaniques, des super questions, un super public, un super chat, et tout ça. Ok ? Merci. Amis de TikTok, je vous dis au revoir. Je vous dis à demain matin pour la revue de presse, et on va faire un raid du côté de Twitch. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin avec moi. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Bah, souvenez-vous, l'actu, c'est une chose, mais l'essentiel dans votre vie, c'est peut-être pas l'actualité, c'est peut-être pas les turpitudes du monde, c'est pas toutes les dingueries qui se passent autour de nous. C'est aussi votre vie à vous. Hein. C'est votre chemin, vos relations avec vos proches, avec votre famille, vos amis. Voilà, le taf qui doit être un outil d'épanouissement et pas un truc chiant, quoi. Voilà, vos passions. Donc n'oubliez pas, c'est bien de s'informer, c'est très bien d'être un citoyen éclairé, de se demander, qui ne reste pas tout seul dans son coin et qui essaie de s'intéresser un peu à ce qui se passe autour de lui. C'est une chose, mais que cela ne soit pas trop anxiogène pour vous. Hein. N'oubliez pas que... Voilà, il faut que vous trouviez votre petit chemin et que le quotidien soit le plus léger et le plus lumineux possible. Voilà. Stéphanie, je comprends ce que tu me dis. À bientôt, amis de TikTok. À très vite. Voilà. Et amis de Twitch, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Un petit raid, bien sûr. Un petit raid. Vous étiez tellement nombreux ce matin, c'est fou. Alors, qui est en live, là ? Ah, ça a une petite envie là. Ah, il y en a du monde. Moi, j'aime bien. J'ai bien. Moi, ah, qui est sur quoi les chouchous ? Bon, les amis, moi j'ai découvert dans Samplay récemment un jeu, hein, qui est Battlefield. Non, c'est attends. Merde, attends. Non. Attends, Chouachin m'a fait découvrir quel jeu ? Chou, il m'a fait découvrir quel jeu déjà ? Warzone. Putain, je me confonds avec tous les FPS là. Warzone, ça a été un truc incroyable. Alors depuis, j'ai découvert Battlefield, etc. Donc je m'y perds un petit peu. Mais il y a Chou H1 qui est en live actuellement. Et pas sur Warzone. Il est en stream sur le Call of Duty Black Ops 7, la bêta, qu'on a découvert nous-mêmes la semaine dernière. Voilà. Vous avez vu la bêta avec un noob avec moi. Voilà. Mais là, vous avez un pro. Un pro FPS. Donc il y a Chouachin qui est en live, on va aller le voir. Et puis j'espère qu'on fera bientôt un truc. On doit rejouer à Warzone ensemble d'ailleurs. Putain, dommage que j'ai un rendez-vous parce que je le vois jouer là. J'ai trop envie de regarder le stream parce que le niveau il est fou. Allez, c'est parti. Chouachin. Voilà. Black Ops 7 Call of Duty. Voilà. Merci les amis. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été aussi nombreux. C'était un plaisir ce matin. Et on se retrouve peut-être cet après-midi. peut-être ce soir, ça dépendra de l'urgence de l'actualité, et au plus tard, demain matin. Prenez soin de vous, belle journée, bon début de semaine, à très vite, je lance le raid.